Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Merci d'écouter l'épisode de cette semaine avec Wally, qui est un tireur d'élite, combattant, volontaire. Je vais juste faire un petit avertissement pour le podcast d'aujourd'hui. Wally et moi, on parle de guerre, on parle d'histoire de guerre, on parle de la réalité, de qu'est-ce qui se passe. Wally parle franchement, sans tabou, assez cru des fois. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange ou vous pensez que vous n'allez pas aimer, c'est peut-être pas le podcast pour vous. Il y en a plein d'autres disponibles et il va en avoir encore d'autres. Ou si vous êtes curieux d'entendre des histoires de guerre et aussi le parcours d'un soldat, d'un combattant volontaire, la réalité, c'est le podcast pour vous. Donc je vais juste faire un petit avertissement avant de commencer. Bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Wally. Wally est un tireur d'élite à combattre en Afghanistan et qui s'est porté volontaire auprès des forces kurdes dans sa lutte contre l'État islamique, ainsi qu'allé en Ukraine pour rejoindre les forces pour contrer l'armée russe. Auteur de différents livres, produit des documentaires, fondateur d'une compagnie de technologie. Salut Wally, ça va?
Salut.
Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Puis, première question, je voudrais juste savoir un peu, elle ressemble à quoi ta vie en ce moment-là, tu sais?
Ben, tu sais, je me suis habillé. Des fois, je t'invite à des podcasts, puis je m'habille un petit peu plus dans j'incarne plus le personnage. Mm-hmm. On est habitué de voir.
Ouais.
Le tireur d'élite, le soldat, mm-hmm. etc. Puis je mets soit un uniforme, un chandail un peu plus militaire, mm-hmm. ou, tu sais, disons. Bref, j'ai un aspect un peu plus soldat, on va dire, ouais, ça comme ça. Puis là, j'ai un beau petit polo. Mais c'est uniforme là, mm-hmm. je peux l'appeler comme ça, je suis pas, y a rien de compliqué là, c'est ma vie normale. Je veux dire, 90% de ma vie, c'est que je suis un gars qui, je suis un programmeur, je suis un programmeur informatique, je suis consultant, puis j'aide des entreprises, un paquet de projets avec leur truc informatique. Mm-hmm. Puis j'ai moi-même un projet, j'ai ma compagnie DragonAxe.io que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Mm-hmm. Puis j'ai aussi un projet que j'ai parti avec un chercheur américain-israélien,
okay,
sur la sécurité des communications post-quantum.
Mm-hmm. C'est donc, okay,
là, on part, hein, on est loin
déjà
du train,
là,
hein?
Je suis comme, OK.
Mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Mais okay, en résumé, ben, ceux qui sont curieux, c'est HTTPQ,
ouais,
.io.
Okay, je vais le mettre dans le lien,
ouais,
de la description pour les gens qui veulent.
Puis en résumé, ben, tu sais, je peux. Là, on
vas-y,
embarque
vas-y,
dans un
vas-y
sujet complètement différent à ce que sûrement qu'on s'attendait. Oui. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça représente vraiment,
ben oui,
une partie que je parle jamais. Mm-hmm. Pourtant, ça représente mon quotidien plus que la guerre.
Ouais.
Fait que, en résumé, ben, tu as les ordinateurs quantiques. Puis si vous voulez faire une image d'un ordinateur quantique, ça existe, ça marche. Okay? C'est pas juste une idée. Ça ressemble à une tank à eau chaude.
Okay.
C'est vrai, ça ressemble à un gros cylindre. Okay. Ça, c'est une couvercle, mais en dessous, il y a plein de circuits, on, okay, va dire ça, des composantes. Puis en résumé, ça fait certains types de calculs d'une façon extrêmement efficace.
Mm-hmm.
Un ordinateur quantique, mais pas tous les calculs. C'est pas juste un ordinateur ultra rapide.
Okay.
Il faut pas penser ça. C'est juste un ordinateur qui est différent. C'est un peu comme comparer une voiture, à un avion.
Okay.
Si l'avion va aller super vite dans les airs, mais si je te dis, OK, il faut que tu te rendes à ton chalet au Mont-Tremblant, tu vas pas prendre un avion, tu peux pas te rendre. C'est pas fait pour atterrir dans ta, mm-hmm, forêt.
Je comprends.
Mais si tu te dis, va-t'en à Paris, évidemment,
Différence.
Y aller en voilier, en voiture versus. Fait qu'il y a certains types de calculs qui sont extrêmement faciles à régler, pour un ordinateur quantique. Le problème des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils sont en ce moment petits. On n'est pas capable de scale-up, comme on dit, parce qu'ils sont super instables. Donc, c'est un peu comme l'analogie de l'avion.
Mm-hmm.
C'est comme si on était au début de l'aviation, puis on était capable de voler pour, mettons, un kilomètre, puis après ça commence, okay, à vaciller, puis à tomber.
Ouais.
Mais quand ça vole, c'est super performant.
Mm-hmm.
On n'est pas capable de le stabiliser assez pour que ça aille loin.
Okay.
Fait que là, les ordinateurs quantiques, en ce moment, la recherche est toute dans faire en sorte que ça puisse tout simplement ingérer plus de data parce que c'est super instable, c'est un autre type de technologie.
Okay.
Mais ça s'en vient, donc ça grossit.
Mm-hmm.
Puis là, ça s'en vient à pourquoi que HTTPQ.io, pourquoi que j'ai ce projet de sécurité post-quantum. C'est que là, le problème, c'est que nos communications modernes,
mm-hmm,
ça je parle, mettons que tu t'envoies sur WhatsApp, communiquer sur Messenger, un PMA bancaire, un paquet d'affaires, okay,
ouais,
des crypto-monnaies,
mm-hmm.
En fait, notre quotidien, là, c'est,
ouais,
quasiment comme l'air. La cryptographie, c'est comme l'air. On s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on n'en ait plus, puis on se rend compte de son importance.
Okay.
Cryptographie dans notre quotidien. Les ordinateurs quantiques, s'ils atteignent une certaine taille, puis ce qui risque d'arriver, vont être capables de casser super facilement les échanges, les communications.
Ouais. Parce que je savais que, mettons, sur Messenger, c'était pas trop sécurisé, mais je pensais que WhatsApp était comme plus...
C'est bon. Ou... on appelle ça du end-to-end, c'est-à-dire qu'il y a comme une... C'est des maths, hein,
okay,
au final, de l'encryption, c'est des problèmes mathématiques. Puis, du coin, tu sais, mettons, t'as ton sel, puis là, l'autre bord, il y a un sel aussi. Ouais. Ton end-to-end, ça veut dire que t'envoies pas un message à un serveur que lui sait ce qui se passe. Ouais. Il y a vraiment des maths, un échange mathématique. Je rentrerai pas dans les détails techniques. Mm-hmm. Il fait en sorte que chaque côté, tu peux être confiant que quelqu'un qui écouterait, incluant le serveur, mettons Facebook, parce que Facebook détient WhatsApp, mais ils peuvent pas savoir ce que tu dis. Si t'as un ordinateur quantique assez fort, tu pourrais casser ça, cette clé-là. Ou avec un super ordinateur que tu fais travailler super fort, puis si la clé, parce que c'est des clés d'encryption, là, sont faibles, tu pourrais le casser avec beaucoup d'efforts. En mettant, exemple, au travail, un super ordinateur qui travaille pendant un mois. Mais il y a certains types de clés qui sont pas capables parce que ça serait vraiment, vraiment gros. Puis là, ils vont décrypter, mettons, ton message, ils vont se rendre compte que c'est une image de chat. C'est un mauvais investissement. Fait que, tu sais, bref, là, le problème, c'est que les maths, c'est un problème de maths, au final. Puis du code, moi, je suis programmeur, fait que j'implémente des solutions cryptographiques, par exemple, ou un paquet d'autres affaires aussi. Mais, tu sais, des... ça implémente, comme on dit en langage technique, des maths. Ces maths-là, on comprend qu'ils sont à l'épreuve des ordinateurs, mais là, le problème avec les ordinateurs quantiques, c'est qu'il faut des nouvelles maths. Le problème, c'est qu'on en a identifié. Il y a des chercheurs américains, etc. Le problème, c'est que c'est basé sur ce qu'on appelle en anglais des assumptions, c'est-à-dire que quand tu as un problème mathématique, il y a des problèmes mathématiques qui sont faciles à régler dans un sens si tu... Encore là, je ne veux pas aller trop dans le technique, mais sont faciles à aller dans une direction, comme une formule mathématique, sont faciles d'aller dans un sens, mais difficiles de renverser. Ça, c'est ce qui est à la base de beaucoup de systèmes d'encryption modernes. C'est qu'on sait que si je m'échange, mettons, de ton cellulaire à ton cellulaire, des données mathématiques, on sait que mathématiquement, ça va être super dur à renverser ce processus-là. Avec le sentiment quantique, on pourrait, mais là, il faut d'autres types de problèmes qui utilisent cette logique-là, d'autres formules. Mais encore là, c'est des assumptions. C'est-à-dire que là, on prétend que ces problèmes-là sont insolubles, sont pas faciles à résoudre avec les ordinateurs quantiques. Fait que là, moi, il y a un chercheur que j'ai approché, que lui a fait un autre type d'encryption en plus, qui est basé sur une technologie qui est basée sur, dans le fond, l'aléatoire. Puis l'aléatoire, c'est le type d'encryption le plus « safe ». Il n'y a rien. Les ambassades utilisent des algorithmes qu'on appelle Vernam. Puis depuis très longtemps, c'est la seule algorithme qui est quasiment. Il y en a même qui disent que c'est certain que ce soit.
C'est impossible à briser.
Parce que je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi, là, mais en fait, c'est super simple. Même à comprendre. Même si j'entrais techniquement, ça serait simple, mais je ne le ferai pas parce que ça peut être simple, mais. C'est toute réserve. Mais en résumé, c'est des algorithmes semblables à ça que ce chercheur-là a développé, basé sur un peu... Le problème, c'est que les algorithmes que les ambassades vont utiliser sont extrêmement peu pratiques. Puis là, ça va être la dernière. Tu vois que ça me passionne.
Oui, t'es vraiment passionné. C'est pas quelque chose
qu'on pense de moi parce que j'en parle pas souvent, à part quand je l'entretiens, mais... En résumé, les ambassades, en ce moment, mettons, les Américains veulent envoyer un message de Washington à, je sais pas moi, l'ambassade de... Syrie, mettons. Ben, ils sont pas en Syrie, en fait. Mais mettons l'ambassade en Chine. Ça, c'est un exemple vraiment très intense. Là. On va comprendre pourquoi qu'on veut qu'on encrypte bien communication. Il faut qu'ils échangent. Le problème, c'est qu'ils vont échanger des clés d'encryption pour encrypter. Mettons qu'ils font une vidéoconférence. Tu veux pas que le data soit intercepté puis qu'il soit décrypté. Tu peux pas utiliser des technologies comme WhatsApp. C'est pas assez fort. Ils utilisent une autre sorte de technologie. Le problème, c'est qu'il faut que tu échanges tes clés en avance. Donc, si, mettons, tu veux encrypter un message... une image, mettons, qui est 5 MB, il faut que tu aies une clé de 5 MB que tu échanges en personne avant. Tu peux pas l'échanger comme à distance. Tu comprends? Tu peux pas l'échanger à distance parce que si tu échanges ta clé à distance, la clé va être interceptée. Tu comprends? Puis, tu peux pas la réutiliser deux fois. Fait que si tu as comme 10 images de 5 GB, il faut que tu aies 50 MB. Fait que c'est très peu pratique. Ça marche, par contre. La technologie que là, je suis en train d'implémenter avec le chercheur américain. En fait, lui, il a tout fait les maths déjà, c'était breveté, etc. Dans le fond, c'est semblable à ça. Sauf que là, il y a une petite twist mathématique qui fait en sorte qu'on peut... On n'a pas besoin de pré-échanger nécessairement des clés. On n'a pas besoin d'avoir une grosse clé. On peut réutiliser la même. Puis d'une façon mathématique, on est capable de prouver qu'on a une efficacité 99,9. C'est vraiment... quasiment la même affaire que l'exemple que je vais donner, Washington, mettons Beijing. vont s'échanger. Fait que,
OK, je comprends. Fait que t'es dans la grosse, grosse technologie, genre oui, complexe, non. Que oui, les gens parce communs ne comprennent pas.
Oui, puis non, parce que l'erreur qu'on fait en technologie, c'est souvent de surcompliquer les choses qu'on appelle over-engineer.
OK.
Puis souvent, les technologies les plus fiables et les meilleures sont les plus simples.
OK, je comprends.
Fait que faut tout, moi, ce que j'aime, j'adore quand je simplifie un problème compliqué. En fait, moi, c'est j'adore quand que j'ai comme un gros problème d'un client ou ouais. peu importe. Puis là, je le ramène à sa plus simple expression, puis j'en fais quelque chose de super simple. Okay. Ça, là, c'est comme... Moi, je dis tout le temps, moi, je suis un programmeur, mais j'adore quand j'enlève des lignes de code.
Je comprends.
Okay. Quand c'est simple, c'est clair, c'est ça qui... c'est parfait.
C'est vraiment... Ouais. Fait que là, toi, ça, c'est une partie de ta vie.
Mais moi, je fais ça, tu sais, je faisais ça matin.
OK, c'est la grosse partie de ta vie.
Hein? Oui, oui, mais tu sais,
je... Mais c'est la partie de la vie qu'on connaît
c'est
moins.
Ça. Ouais, c'est ça, on me connaît pour quelqu'un qui va tirer du monde. Je suis un psychopathe qui veut juste tirer pour tirer, ouais. puis ça finit là. Ouais, ouais. Y en a qui... Mais quand tu passes des médias, surtout à international, etc., tu deviens comme un peu immunisé contre la distorsion et les fausses ouais. perceptions. Tu es habitué.
Mm-hmm.
Tu es habitué que quelqu'un va dire « Hey, je pense ça de toi, mettons. » Tu vas voir des commentaires Facebook. Ben oui. Puis tu sais que des fois, l'information sur laquelle ils se basent pour leur opinion, en fait, c'est même pas vrai.
Exact. Okay. Mais l'affaire aussi, c'est, je sais pas si le monde le sait, mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur toi durant les dernières semaines. Puis t'es internationalement vraiment médiatisé. Là,
oui, oui, c'est
comme,
ça.
Il y a des vidéos, allez voir si vous voulez, les gens sur YouTube, il y a des vidéos quand tu sûrement, premièrement, dès que t'es allé en Ukraine, là ça a comme fait
un peu.
Il y a des vidéos avec 2,8 millions de vues.
Oh oui, genre, ça a buzzé, c'est un méchant temps. Là.
Vraiment. Là,
mais vu que j'étais déjà médiatisé, j'avais déjà l'expérience de médiatisation, j'avais passé à tout le monde en parle, ouais. mettons, quand j'étais contre l'État islamique. Fait que ouais. J'étais habitué.
Mm-hmm.
Puis, si je peux donner des conseils, en fait, là, je suis un bon coach là-dedans, c'est juste que je suis déjà dans les technologies, là, mais je peux donner 2-3 conseils, là, mettons, à d'autres personnes. Là. C'est, premièrement, c'est des cycles.
Mm-hmm.
Tu sais, comment je peux dire ça? Quand c'est haut, c'est comme une drogue, puis les gens, tu sais, tout le monde est ton ami, tout le monde t'aime, tout le monde ici. Puis là, ça baisse, puis ça revient, ça
part.
Mais souvent, il y a beaucoup de monde que ça va monter, puis ça reviendra plus jamais, parce que ça va être un 15 minutes de gloire.
Exact.
Puis ça, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec ça. Il y a aussi le fait que tu vas avoir beaucoup de critiques négatives, des distorsions de toutes sortes. Des fois, c'est de l'exagération positive. Ouais. Depuis que je suis allé en Ukraine, je sais pourquoi Jésus a marché sur l'eau. Là,
OK, t'sais. Je comprends. mais tu vois, ça, là, je trouve ça vraiment un bon point. Parce que tantôt, avant que tu arrives, j'ai regardé une vidéo de toi. Ben, c'est pas toi qui as fait la vidéo, mais c'est quelqu'un qui a fait une vidéo sur toi. Puis, c'était comme juste des photos de toi puis des faits. Des,
OK.
Des
reports. Ah, ouais.
C'est vraiment une grosse vidéo avec vraiment beaucoup de vues. Puis ça disait le tir le plus loin au monde, c'est toi qui l'as fait.
C'est pas vrai.
C'est toi que t'avais comme 40 kills par day.
Moi, j'adore des banques, les perceptions.
Parce que quand tu regardes ça, tu dis, ce gars-là, il doit être au temple de la renommée du
monde.
Mais
je peux tuer 40 personnes par jour là, si les conditions sont réunies. Là. C'est comme
eux disaient ça, c'était ça depuis toujours.
Mais le problème, là j'en parle, j'ai l'air d'un psychopathe en parlant de même. Non, mais c'est parce que j'adore, moi, débunker les affaires. Ouais. Okay? Même quand que on me dit, hey, t'as fait ça, puis je débunke.
Ouais.
Moi, il n'y a rien qui, je trouve, plus intéressant que la vérité froide, brutale.
Mais c'est ça,
aussi brutale et des fois même ennuyante qu'elle peut l'être, je trouve que c'est tellement plus intéressant.
Mm-hmm.
En fait, tout est fake à notre époque. Tout le monde veut être sur Instagram. T'entends parler des jets privés loués. Finalement, c'est juste un jet loué. Tout le monde est fake. Puis je pense que depuis. Moi, j'ai investi dans l'authenticité.
Okay.
Je pense qu'à long, ça va payer. Je suis pas parfait. On peut être d'accord avec moi à moitié ou peu importe, mais à long, je pense que les gens s'en rendent compte.
Ouais.
Et puis, je pense qu'à mon avis, le monde se dit, OK, lui, tu sais, il est peut-être pas parfait, mais au moins, il est sincère.
Exact, il est authentique.
Puis même là, devant le micro, je suis quand même relativement semblable à comment je suis pour vrai. Là.
Ça, c'est vraiment.
Je m'invente pas vraiment une personnalité. Là.
Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis, en tout cas, là, on a fait un détour sur qu'est-ce que tu fais en ce moment. Puis, je veux vraiment en parler. Mais il y a un autre aspect de toi que je trouve tellement intéressant, c'est que tu es un combattant volontaire.
Oui.
Puis ça, là, tu dis que 90% de tes journées, t'es un programmeur, t'es souvent chez vous devant ton ordi, puis tu fais des appels conférences comme nous, là, tout le monde. Mais tu es un combattant volontaire. Fait que tu peux-tu m'expliquer c'est quoi un combattant volontaire?
Oui, bon.
Pourquoi tu voudrais être combattant volontaire?
Ma conjointe serait contente de ta question parce que c'est souvent, ils amènent beaucoup de confusion. Puis je dois beaucoup le rappeler. D'ailleurs, j'ai été à Toronto, j'ai rencontré la communauté ukrainienne la semaine passée, puis il y avait l'événement, puis tu es sur on stage, puis tout. Puis il y avait à un moment donné une petite conférence là, dans une salle où on présentait des choses, on parlait à des médias, etc. Puis justement, j'ai senti qu'il y avait une confusion concernant cette dualité de combattant. C'est quoi un combattant volontaire versus un soldat régulier?
Oui.
Ben, en fait, c'est ça en premier lieu qu'il faut dire.
Exactement.
C'est que quand tu es combattant volontaire, tu n'es comme pas un soldat officiel. Un soldat officiel étant quelqu'un qui s'enrôle, mettons, dans les forces canadiennes.
Ouais.
Puis qui vient officiellement là, sur le payroll des forces canadiennes, donc de la défense nationale, etc.
Ouais.
J'ai fait ça. Donc, des fois, il y en a qui pensent que j'ai jamais fait ça parce que là, je mets l'emphase sur volontaire.
Non, c'est ça. T'as fait ça pendant combien de temps?
Fait que j'ai fait 12 ans à peu près.
OK.
Parce que j'ai fait les cadets avant, longue histoire, c'est du temps, mais je le compterai pas. On va dire 12 ans.
Ouais.
OK. 12 ans officiel. Tirade d'élite, deux fois en Afghanistan.
Ouais.
J'aurais souhaité aller plus de faire de missions, mais okay. J'en ai fait deux, mais quand même intéressantes.
Ouais.
Dans ce livre-là, j'en parle.
Ouais.
Je suis un peu un story magnet. Là, genre, quand je vais en guerre, on dirait que ça attire des histoires de fous.
Okay.
ça s'écrit bien parce que c'est très structuré comme une histoire, ça, ce qui se passe avec moi. T'sais. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai fait excuse-moi, j'ai fait 12 ans officiel.
Ouais.
Fait que là, j'étais un militaire officiel. Tu comprends?
Mm-hmm.
Fait que sur le payroll de l'armée, etc. J'ai quitté. Puis là, après ça, j'étais allé 2 mois plus tard, je pense. J'étais allé avec les Kurdes comme volontaire. Mais quand t'es volontaire, là, t'atterris comme un touriste.
Puis pourquoi t'as quitté l'armée?
Je dis tout le temps en blague, j'ai quitté l'armée pour aller à la guerre.
OK, parce que tu
non, mais c'était vraiment ça. Mais moi, je chantais que j'étais dû.
Ouais.
OK, je m'ennuyais. Parce que l'armée, une armée, c'est une grosse machine à saucisses.
Mm-hmm.
Fait que tu mettes un beau steak, que tu mettes de la junk, ça va sortir une saucisse de moyenne qualité.
Je comprends.
Fait que les individus qui veulent aller plus vite, c'est difficile.
Mm-hmm.
C'est très, c'est très un peu soviétique, une armée.
OK.
T'as un chemin de carrière, puis ils vont te dire, voici étape 1, étape 2, étape 3, puis voici ta carrière, puis t'as pas beaucoup d'options, t'es pas... Captain of your
destiny.
Tu es vraiment lié au fait que si quelqu'un t'aime ou t'aime pas pour vrai, là, c'est trop. Puis t'es très limité. T'sais, exemple, tu veux partir en mission.
Ouais.
C'est pas une question d'individu. Moi, je connais des gens qui sont. Ça, c'est beaucoup de frustration dans l'armée. Là.
Ouais.
Moi-même, je l'ai vécu. J'ai attendu 6 ans avant d'être déployé la première fois. Je vais te donner un exemple. Tu fais 3 ans. Puis là, tu vois un nouveau qui vient de finir son cours de recrue, puis s'en va en déploiement. Il revient, puis il dit ah, moi, en tout cas, je sais c'est quoi. C'est fâchant. Tu dis je vais y aller, puis je peux pas. Mais c'est parce que ça marche pas par individu. Souvent, ça marche par unité.
C'est-à-dire
c'est des blocs.
Je comprends.
Le bataillon XYZ, on fait une force opérationnelle, on la déploie.
Okay.
Ça marche par bloc. Fait que l'individu est très. T'sais, c'est normal, c'est une armée.
Je comprends.
Mais c'est pas une bonne place. Mais c'est bon pour faire, je pense. Faire un service militaire, c'est bon en général, je pense, pour en général, mais si tu veux, c'est très difficile d'avoir le contrôle sur ce qui va se passer. Tu peux pas dire je vais être déployé, je vais être ici.
Ouais.
C'est difficile. Petite chose que tu peux faire, tu peux choisir ton unité, ton métier, etc., mais t'es limité. Fait que j'ai quitté parce que je chantais que j'étais dû.
Puis t'avais quel âge à ce moment-là?
T'as minute, là, 33 ans.
OK.
L'âge du Christ.
OK.
Fait que j'ai quitté, puis là, en même temps, il y avait l'État islamique qui était vraiment fort. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut se rappeler, là, c'était intense. Là. Ils prenaient des villes après les autres. On voit les massacres qu'ils faisaient. Ils lançaient des homosexuels en bas des buildings. Ils massacraient le monde, ils coupaient la tête, ils noyaient les gens dans des cages. Tu te rappelles des images? Ils filmaient ça avec des caméras, des SLR de haute qualité en HD.
Je sais pas si je m'en souviens pas parce que mon cerveau veut pas s'en souvenir.
Mais tu vois l'État islamique avec leur drapeau, puis ils annonçaient ça, ils coupaient la tête du monde. Puis on voyait quand même des images censuré, mais on sentait que c'était vrai. Fait que tu vois pas le monde se faire couper la tête, mais
tu le sais
coupe avant, mais tu sais que c'est une vraie image. Puis ils montraient ça partout dans les médias.
Ouais.
Ça se promenait. Puis ils prenaient des villes les unes après les autres. Ils capturaient des tanks, des hélicoptères, des affaires. C'était comme l'apocalypse.
Puis toi, ça venait te chercher, dans le fond?
Oui, c'est ça. Puis là, ça, c'est dur à comprendre pour ceux qui sont pas des soldats, mais quand tu as la flamme du soldat, c'est un peu comme quelqu'un qui a la flamme du personnel soignant.
OK.
Tu vois, mettons, il y aurait un tremblement de terre ici, puis là, tu es à retraite, tu es un médecin à retraite. C'est dur de résister à ta passion, je peux dire ça, même d'aller aider.
Je comprends.
Puis surtout si quelqu'un te le demande. Fait que j'ai été là comme volontaire. Fait que là, volontaire, t'es comme un touriste, là.
Fait que tu payes ton billet d'avion.
Tu fais tout toi-même. Puis ce qui est difficile, c'est pas. Oui, il y a les coûts, on prend en parler, mais ce qui est aussi difficile, c'est le fait qu'administrativement, t'es pas supporté, là.
Ben oui, c'est ça.
Je peux pas te dire, moi, je vais m'acheter mon arme, mon équipement, etc. Tu peux arriver à l'aéroport, ils te confixent tout.
Oui, c'est ça.
T'es un civil.
Oui, c'est ça.
Tu peux pas passer les armes,
il faut des permis. Tu peux pas essayer de dire, non, mais je m'en vais combattre. Ils sont comme, mec, t'es pas dans l'armée.
Ben moi, j'ai tout le temps comme principe que je veux pas être illégal. Fait que j'ai rencontré des gens. Tu sais, je veux pas me battre comme mon pays, là.
Mm-hmm.
Si mon pays me dit c'est illégal de faire ça. Tu sais, le Canada, Québec, c'est pas parfait, mais À un moment donné, il faut jouer en équipe un peu. Ouais. Là. À un moment donné, je n'irais pas comme faire du trouble partout. Puis être ça une liability pour mon pays. Fait que tu sais, j'ai une attitude coopérative.
Ouais.
Puis à date, c'est bon là, parce que tu sais, je me suis assuré en parlant à toutes sortes de personnes.
Ouais.
Tout est fine. On a fait des entrevues. Là.
Okay.
Puis souvent, quand j'étais moins connu à l'époque, ils veulent te voir, c'est une espèce de psychopathe fou. Mm-hmm. Puis le phénomène était moins connu des volontaires. Ouais, ouais. Avec l'État islamique, ça a comme... Là, avec l'Ukraine, on a atteint une certaine maturité, on va dire, collective. Ouais. Là. Mais bref, j'ai fait... Ils me gageaient, là, que tu t'en vas faire là. Puis là, ils me montraient des images de drapeaux. Si tu vois ça, ça, c'est organisation terroriste officielle. Ça, c'est ici. Fait que si tu joins ça, t'es illégal. Évidemment, avec l'État islamique, il y avait un... Mais il y a d'autres groupes.
Okay.
Tu sais, quand tu vois que les Kurdes, exemple, t'as une partie qui est en Turquie qui combat, qui est une insurrection contre les Turcs.
OK.
Puis la Turquie fait partie de l'OTAN.
Mm-hmm.
La Turquie a fait bien des problèmes, mais en même temps, c'est notre allié. Ouais. Fait que à cause de ça, ils sont un peu comme très capricieux. Là. Si je m'en vois que le PKK, qui est une organisation kurde, territoire turc, puis un peu qui déborde des deux un peu partout, c'est une organisation terroriste officiellement.
Ah ouais, OK.
Je reviens ici, ils savent.
Tu te fais arrêter.
Ouais. Ah, d'ailleurs, si je m'en vais en Turquie, peut-être que je me ferais arrêter.
Ah ouais, hein?
Ouais.
OK.
Fait que tu sais, j'étais un terroriste.
OK, je comprends. OK, pour eux, c'est ça leur description. Dans
c'est ça. Fait que toi... peut-être qu'ils feraient juste me détenir puis ils feraient juste me faire abriter pendant 3 ans en attendant un procès.
Ouais.
Puis là, je ferais juste perdre mon temps puis perdre, c'est genre...
Mais ta vie.
C'est ça, là. Tu fais rien. Exact. Fait que... Puis tu sais pas aussi quand ça va arrêter. Mm-hmm. Si tu sais que ça va finir après 3 ans, tu dis, OK, je prends mon mal à patience. Mais si justement, je suis incarcéré, puis j'ai aucune idée si dans 10 ans, 20 ans, à vie, le mental, il va peut-être jouer un petit peu.
Exact.
C'est pas bon, sa santé mentale.
Fait
que, bref, c'est un peu ça la réalité. Fait quand t'es volontaire, il faut que tu connaisses un peu la géopolitique. D'ailleurs, j'ai été consultant pour Affaires globales Canada. J'ai briefé un paquet de monde comme consultant après ça.
Okay.
Militaire, diplomate, un paquet de monde, journaliste, peu importe. Puis, faut que tu sois un peu comme One Man Army. C'est-à-dire que tu dois faire ta propre logistique, ton propre transport. Tu dois dealer. Si j'ai un escale en Turquie, mais que je m'en vais avec les Kurdes, je peux pas.
OK.
Quand t'es dans l'armée, là, à la limite, là, tu peux te mettre un bandage chez les yeux.
Puis ils disent où aller.
Puis tout est mécanicien d'hélicoptère maintenant. Puis là, j'ouvre le bandage 2 semaines plus tard. Hop, là, tu vois des montagnes autour. T'as aucune idée. La tribu X, Y, Z aime pas l'autre tribu. Puis il va avoir un radar qui va capter des missiles. Là. Tu n'as aucune idée. T'as juste. Voici ton hélicoptère, faut que tu répares.
Je comprends.
C'est parfait.
Ah, ouais.
C'est ça qu'il faut en armée, tu es spécialiste. Mais quand tu es. C'est parfait, tu sais. Mais quand tu es un volontaire, tu dois comprendre ces nuances-là. Parce que, si, exemple, tu t'envoies à Erbil, qui est la capitale au Kurdistan irakien, puis si tu comprends pas le concept que Erbil est en chicane avec la gang de l'autre ville, qu'au checkpoint, ils se sont tirés dessus, à un moment donné, quand j'étais là.
Ouais.
Tu comprendras pas pourquoi que faut que tu dises des choses d'une façon. T'sais, j'étais dans des bureaux au Kurdistan, là, c'était comme. Je l'ai pas écrit, j'avais écrit un livre sur le Kurdistan après parce qu'il y a tellement d'affaires que je n'ai pas raconté. Mais tu t'en dans un bureau, c'est comme une espèce de bureau. Comment je peux te dire ça? T'es très. Très cliché soviétique. Tu sais, le gars avec la grosse moustache avec le gros corde en or en arrière.
Ouais, je comprends.
C'est ça. Puis là, lui, il est là avec son. Puis il est surélevé. Là.
Ouais.
Là, lui, il faut qu'il donne un papier pour passer telle affaire. Puis si tu l'as pas, tu étais. Tu sais, à un moment donné, j'étais illégal au Kurdistan.
Ah ouais?
Ouais. Puis il a fallu comme. Je me rappelle, j'étais allé à un bureau escorté de quelqu'un, un ami de confiance.
Mm-hmm.
Puis là, en bon occidental, parce qu'on est tellement fin en Occident. Là, je vois la grosse file d'attente, je me mets en arrière de la file. C'était des réfugiés qu'il fallait qu'il y ait un autre permis eux autres parce qu'ils arrivaient à cause de l'État islamique, ils se réfugiaient à Erbil. Puis il n'y avait plus de permis de réfugié, fait qu'il fallait qu'il y ait un papier.
Okay.
Moi, je me mets en arrière de la file, il me dit t'as rien compris, là, tu vas attendre ici comme une semaine.
OK, je comprends.
Okay. Moi, j'ai comme principe, si j'ai des passe-droits comme combattant, je les prends parce que tu combats.
Ouais, je comprends.
À un moment donné,
non, c'est ça.
Call me wrong if you want, but je vais faire ça. Fait que là, on a passé devant tout le monde, on a fait peut-être 15 bureaux, aller-retour. Dans des pays de même, là, c'est la maison des fous. Là.
Ouais.
On pense qu'ici, il y a de la bureaucratie, mais dans d'autres pays, il y a de tabarnouche.
Ah ouais, hein. Puis est-ce que tu parles kurde ou.
Ouais, ben, là, j'ai comme oublié les notions, mais ça serait après.
OK.
J'apprends l'ukrainien, évidemment, vu que je collabore et j'aide les Ukrainiens. Fait que l'Ukraine, c'est très difficile à apprendre comme langue.
Okay.
C'est très proche du russe.
OK.
Par chance, Duolingo existe.
Ah oui, c'est ça,
c'est ça. Mais Duolingo, j'adore ça.
Okay. Okay?
Puis là, il y a un volet ukrainien, fait que là, je peux parler.
Ah, cool.
Mais l'ukrainien, c'est une des langues que je trouve plus dur à apprendre que toutes les langues moyen-orientales, comme le pachto en Afghanistan. Okay. Je m'emmenais vraiment bon.
Ah ouais?
Quand même pas pire, là, okay. Au point qu'ils pensaient que j'étais afghan. Ah ma ouais? face en plus.
Ah ouais, c'est ça. Mais t'as comme un teint de peau.
Mais juste parce que mon père vient d'Amérique du Sud. Mm-hmm. Je me suis cassé une dent en plus, ça fait que ça aide pas. Okay. Fait que ça donne un nez pointu. Fait que là, j'ai vraiment l'air d'un. En fait, j'ai l'air d'un peu iranien, okay. afghan. Puis en Afghanistan, ils pensaient que j'étais interprète.
OK.
Parce que les interprètes, tu sais, avaient des uniformes. Ouais. Puis là, souvent, même armé, ils me disaient, ils me parlaient en pachto.
OK.
La langue du au sud, là.
Ouais.
Ils me parlaient, puis j'ai appris les professions de foi.
Ah ouais, hein.
Là, il est là, il est là-haut, Mohamed Rasulallah.
OK.
Ça, c'est la profession de foi musulmane.
OK. Puis ça, tu dis ça comme en signe de politesse ou.
Non, ben ça, c'est une profession de foi.
OK.
Puis ça, en résumé, ça veut dire, là, il est là-haut, Mohamed Rasulallah, ça veut dire, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mohamed est son prophète.
OK.
Puis ça, en présentant, c'est le premier. C'est le premier pilier de l'islam.
OK.
Si tu dis ça, en fait, là, si tu dis ça en croyant, maintenant, tu es un musulman. Hein?
OK.
Théoriquement.
OK.
Parce que c'est la base. La Mecque, pèlerinage, voyons, en anglais, le fast, le jeûne, c'est secondaire.
OK.
Okay, dans un sens.
Fait que c'est ça, c'est cette phrase-là.
Ça, si tu dis ça puis tu le crois, pour vrai, là, tu es musulman, okay. dans un sens.
Je comprends.
T'as pas besoin de plus que ça. C'est la base. Mais en résumé, tu sais, j'apprenais ça. Fait que il pense, tu sais, j'avais. Quand j'apprends une langue, souvent, je suis quand même assez habile, fait que je suis capable de pas trop avoir d'accent selon la langue.
Ouais.
Ça dépend laquelle, mais en apache tout, j'avais pas beaucoup d'accent.
Ah ouais, c'était impressionnant.
Puis ils pensaient que. C'est sûr, des fois, des choses que je savais pas.
Ouais.
Ce qui est drôle, c'est que j'arrivais en Ukraine des fois, puis j'ai encore des réflexes de parler en d'autres langues.
Ah
des fois.
Ouais, hein.
C'est parce que je suis comme en mode soldat volontaire, OK.
Ouais.
Puis là, des fois, tu sais, je vais comme avoir. Il y a comme un mot qui va sortir comme. Eh non, je suis pas au Kurdistan.
Ah,
c'est ça.
Ah, mais c'est intéressant. Puis est-ce que. Parce que j'ai tellement de questions là, qui me popent en même temps en tête. Parce que. Tu sais, mettons, tu dis, tu switches de mode. Tu sais, t'es comme, OK, là, je suis programmeur. Puis là, je m'en vais combattre. Je suis un soldat. Je suis un combattant volontaire. C'est quoi ce mode-là? C'est quoi qui fait.
Je sais pas comment. Moi, j'ai déjà suggéré à une équipe de recherche de faire des scans dans mon cerveau. Parce qu'honnêtement, des fois, je me comprends pas moi-même. Parce que je suis vraiment capable de faire un switch super vite. Tu sais, en Ukraine, la première fois que j'ai été, tu sais, je vois du monde à la même distance que toi, là, puis il n'y a plus de jambes, mourir devant moi, là, littéralement. Là. Mm-hmm. J'ai vu son dernier souffle comme dans un film de guerre.
Okay?
C'est assez impressionnant. Puis une semaine plus tard, je suis au retour, puis je fais mon rapport d'impôt en retard. Là. Puis je code, puis je suis là, je suis dans un meeting Zoom, puis allez, ouais, OK, ton problème, c'est ci, puis c'est ça, tu sais. C'est...
Ouais, c'est vraiment.
Je suis capable de faire le switch.
C'est impressionnant.
Mais je suis pas baissé en plus. Puis à cause de la manière dont je parle, qui est détaché, le fait que je ne sois pas blessé, etc., il y en a des fois qui ne me croient pas.
Mais c'est ça que j'allais dire. Parce que...
Moi, je suis content que quelqu'un ne me croit pas.
Ben,
ça veut dire, yes, j'avais dit j'ai fait de quoi.
Ben, je trouve ça quand même impressionnant parce que tu rentres ici, tu t'es là, tu jases, tu n'as aucune cicatrice,
je suis tout le temps de même. Blessure, même au combat, je suis pas mal de même. Tu sais, en guerre, je suis le même.
Puis, est-ce que quand. Parce que là, tu sais, quand tu t'es enrôlé, ça faisait déjà 6 ans, tu étais. T'es comme surexcité d'aller.
Mais oui, j'étais content. J'étais content. Mais tu sais, c'est comme si quelqu'un, tu lui dis, tu vas faire ta job pour vrai.
Ouais.
Tu sais, je vais donner un parallèle. Tu étudies en journalisme. Puis là, je te fais faire des faux articles qui sont jamais publiés pendant des années. Puis à un moment donné, t'as un vrai article, un reportage d'enquête sur la mafia. Je sais pas, donner un exemple X. T'sais, c'est sûr, tu vas être content. Hein.
Ouais.
En même temps, tu souhaites pas que la mafia fasse un meurtre. Non, là, mais tu vas être content que.
T'es comme enfin, il y a. Je sens quelque chose.
C'est ça. Fait que l'armée, tu fais semblant. Il y a du monde qui vont faire semblant toute leur vie dans l'armée, qui font jamais rien. Puis il y a beaucoup de pays qui vont pas à la guerre. T'sais.
Ouais.
T'sais, exemple, la Suisse, ils sont neutres. Fait que quand t'es dans l'armée suisse, tu fais pas. T'interviens pas en Afghanistan, dans d'autres places comme ça. Là,
ouais.
Fait que.
Puis est-ce que ça ressemblait. On dirait parce que on dirait je veux juste situer les gens pour comprendre que c'est real, là, c'est vrai. Là, que, mettons, quand tu vois le film American Sniper, mettons.
Ça m'ennuie.
Toi, pour toi,
parce
c'est
correct,
comme...
l'American Sniper, il est bon, pareil. Okay. Mais en règle générale, les films de guerre m'ennuient.
OK. Parce que
ils sont pas vrais.
Ils sont pas vrais parce que tu vois trop de... Ah, ça, c'est fake. Ah, ça, c'est...
Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est tellement plus intéressant en vrai. En fait, l'aspect sniping, juste la vraie réalité. Tu sais, mon livre, je pense que c'est... Si tu veux savoir, là... Je fais encore de la promo.
Ouais, vas-y.
Pour vrai, si quelqu'un veut savoir c'est quoi vraiment pour vrai sniper, tu sais, mon livre, je pense qu'il est bon.
OK.
Parce que j'explique... Un paquet, il y a des choses que je pourrais expliquer encore, là, puis que je vais expliquer aussi dans le livre que je suis en train d'écrire sur l'Ukraine, celui sur le Kurdistan après, mais il y a un paquet de choses qu'on pense. Tu sais, exemple, c'est pas sûr que tu sais que tu touches ta cible, là, dans la vérité. Là.
Je comprends.
Parce que oui, ton arme tire plus loin, mais vu qu'elle tire plus loin, tu vas tirer plus loin, donc tu vas pousser à la limite de ce que tu peux faire.
Okay.
Fait que tu vas avoir le même problème que quelqu'un qui tire proche avec une arme normale, right?
Ouais.
Fait que souvent, ben, fin que toi, il arrive plein de situations où tu n'es même pas sûr si tu as touché. Parce qu'une personne qui, si je te tire à côté de toi, tu vas baisser quasiment aussi vite.
Ouais, c'est ça. Tu vas te pitcher à terre.
C'est universel, hein? Ouais. Quelqu'un qui t'a jamais entendu de balle tirer, puis il commence à avoir des balles. Tu te jure, tu vois, ton instinct va te faire te coucher.
Ben, c'est sûr.
Probablement.
Je veux croire.
Tu vois plein de réactions humaines.
Ouais.
Puis souvent, c'est pas si clair que ça. Faut, premièrement, il y a du mirage, des fois, dans le désert. Parce que même ici, il y a comme du. Tu peux regarder dans les champs.
Chaud,
ou, mais tu vois comme. Mais tu sais, quand tu regardes dans une optique, tu peux avoir une optique de la qualité la plus extrême. Mais si l'air qui est entre toi et ta cible est flou parce qu'il y a de la chaleur, tu verras pas bien. Fait que tu vas voir souvent la balle. Puis là, c'est pas super clair. Puis là, c'est l'expérience qui parle. Moi, je suis poteur. Fait que là, je suis bon là-dedans.
OK.
Dire hit ou miss.
OK.
Puis des fois, tu peux toucher, puis la personne va pas. C'est pas comme dans un jeu où t'es un bonhomme qui tombe. Là.
OK,
des fois, ça peut être, c'est comme à la chasse. Tu vas avoir quelqu'un qui va toucher.
En courant.
Des fois, ils sont sur la drogue.
Okay.
Ou l'adrénaline, ou peu importe. Puis ils vont comme faire. Je suis pas touché.
T'sais. OK, je comprends.
C'est comme, quelqu'un qui te donne un coup de poing.
Ouais.
Puis là, ça me fait rien, puis il tombe.
Je comprends.
Fait que ça peut faire ça. Ça peut faire qu'il court. Ça fait souvent ça.
Mm-hmm.
Tu sais, souvent, il va courir, puis il va s'effondrer. Mais souvent, à cause de. T'sais, des obstacles.
Ouais.
C'est pas comme genre un beau petit champ de football. Il y a des obstacles. Puis tu verras pas tomber ou tu verras
voir. Tu le sais pas.
Ouais. Fait que ça, c'est la réalité. Puis quand tu es médiatisé, justement, le problème, c'est que tu as tellement de pression là, pour juste raconter des histoires qu'ils vont entendre. Puis même des gros médias.
Ah,
je veux pas nommer qui, mais t'es vraiment gros.
Ah,
Disaient OK, mais dis-moi si t'es sûr que ça. T'es sûr que tu l'as pas touché. Je te jure, je le sais pas. Mais ça, c'est la réalité. Va parler à tes autres gars qui vont dire qu'ils en ont tué 20 d'un coup, puis sont sûrs et certains, si tu veux ton histoire, absolument. Mais tu reçois une pression, puis honnêtement, cette pression-là est malsaine aussi, parce que quand tu es au front, tu sens qu'il faut que tu tires n'importe quoi pour juste prouver que tu tires quelque chose.
Ah, okay.
Puis des fois, il y avait des réfugiés. Puis il y a des réfugiés qui sont morts. Puis je sais pas c'est qui les a tirés, mais il y a du monde, à un moment donné, qui ont tiré des gens, soit russes ou peu importe, par accident, parce qu'ils sont pressés de tirer ou peu importe. Mais moi, j'ai déjà entendu des gars. En Afghanistan, qui disait « Moi, je veux mon kill. » Puis ils ont tué un fermier, tu sais.
Ah, ouais. T'sais. Juste pour dire « Je l'ai fait. »
C'est parce qu'il y a beaucoup de pression. On valorise beaucoup. C'est plate à dire, là.
Ouais.
Si t'es bon, c'est parce que tu vas faire ta job, donc. Là, je vais cru, là. Je suis cru en tabarnak, mais ça, c'est comme comment je suis. Mais justement, j'espère qu'on va comprendre que justement, j'encourage pas ça.
Ouais.
Mais il y a une pression pour tuer. C'est plate, c'est rough que je dis, mais t'as sent, il faut que je tire quelqu'un parce que sinon ils vont dire je suis pas bon.
C'est ça.
T'sais, puis là,
mais tu vois, j'ai une question.
Moi, je résiste à ça parce que de toute façon, j'ai fait mes preuves. Fait que
exact.
Mais
j'ai une question par rapport à ça. Je parlais du film American Sniper, mettons. Il a tellement été mis sur un piédestal, Chris Kyle, surtout après le film. Là, c'était fou, tu sais. C'est le world deadliest sniper in the world. Mais comme, mettons, toi puis Chris Kyle, c'est quoi la différence, mettons?
Ben moi, je vais dire qu'il est meilleur que moi.
OK.
Ouais. Je pense, là. Mettons que j'aurais abêté, je pense qu'il est meilleur que moi. Mettons qu'on serait côte à côte. Je ne sais pas, là. Ben, first, il y a plus de kills que moi, là, officiellement.
OK.
Fait, si on calcule en nombre de personnes qui ont tué, il y en a plus tué. Fait que, il y en a qui calculent ça de même. Mais moi, j'aime vraiment pas ça comparer parce que. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais prendre une équipe de. First, c'est une équipe de snipers. C'est vraiment un tireur isolé, là. Fait que tu vas avoir deux équipes. Okay. Puis là, moi, je suis un commandant.
Ouais.
Là, j'envoie équipe A sur montagne A, équipe B sur montagne B, parce que t'es pas isolé. Là. Il y a un commandement derrière toi qui te dit tes missions un peu. Là. Tu peux le choisir, là, des fois, un peu. Mais puis là, il y a plein de Russes qui se présentent. Puis là, ils se tirent toute la journée. Puis ils en tuent 20.
Ouais.
Puis l'autre bord, ils font rien.
Ouais.
Parce qu'il n'y a rien eu. Qui est meilleur?
Ah,
c'est juste une question de où est-ce qu'il était où.
Dans quelle situation tu t'es fait mettre en place?
Ça peut être aussi banal que ça. Ouais. Je vais donner un exemple très concret. T'sais, au début, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Sniper XYZ tuait 40 Russes par jour.
Ouais.
Premièrement, en partant, quand tu entends des histoires de chiffres ronds, là.
Ah, déjà là.
Pourquoi 40? Pourquoi pas 37?
Ouais, je comprends.
Pourquoi 41?
Ouais.
40. 40 là, tu entends Sniper, lui, il en a tiré 10. Lui, 20. Lui, 25. Là, c'est tout le temps comme 25. Tu 20, 15.
Ouais, ouais.
Un chiffre rond. Ça, red flag. Un autre red flag, c'est quand quelqu'un te donne un chiffre précis, genre, il en a tué 10. La réalité, là, c'est qu'une histoire crédible, là, okay, qui fait OK, ça semble être vrai. C'est quelqu'un qui dira, OK, on a eu un engagement, Puis là, après ça, on a vu bouger dans un buisson. Mon ami a tiré à mitrailleuse. Moi aussi, j'ai tiré mon arme de précision à peu près où est-ce que je pensais qu'il était. Puis là, après ça, il y a une autre patrouille le lendemain qui est allée, puis il y avait des traces de sang, puis il y avait deux corps.
Comment tu peux savoir qui
est? Ça, c'est réaliste. Ouais, c'est ça. Puis je pense que j'en ai touché quatre. Puis là, j'ai vu après ça qu'ils évacuaient, mais je voyais des équipes bouger dans les buissons. Puis là, après ça, c'est réaliste comme histoire. Genre, j'en ai tué 10 piles. La majorité des soldats sont tués par l'artillerie puis l'armement lourd. Mm-hmm. Ce qui est très peu glorieux parce que c'est un travail d'équipe, c'est des armes que tu vois pas, l'artillerie qui tire loin, etc., l'aviation, peu importe. Fait que la majorité des morts sont tués par des armements abstraits qui sont pas personnels. Tu verras pas celui qui te tue, c'est comme une machine qui te tue de loin.
Ouais.
Ça, c'est la majorité des pertes. Après ça, il y a ceux qui sont tués par armes légères, mettons mitrailleuses, etc.
Ouais.
Puis la majorité de ceux qui meurent à la guerre sont morts après l'événement.
Ah, OK.
Tu meurs pas sous le coup. Ouais. C'est genre, tu vas être évacué, tu meurs au bout de ton sang, peu importe. C'est ça qui arrive. Fait que la majorité du monde qui disent, moi, j'ai tué tant. Pour maman, d'un point de vue statistique, c'est impossible que tout le monde en dise. C'est impossible. Okay? Tout le monde dit que oui, là, des fois, là, parce qu'il y a une pression, ben, malheureusement, à notre époque, Instagram, etc., pour dire que tu as fait X, Y, Z. Mais tu sauras, même si c'est vrai,
tu peux pas savoir,
c'est à peu près impossible que tu... Il y a des exceptions, ça peut arriver. Ça peut arriver que des situations que tu étais plus sûr, ça peut arriver, mais c'est juste que la situation a tombé de même.
C'est intéressant, la pression de comme... c'est comme dire tu es un joueur de hockey du Canadien de Montréal.
Ouais, faut que tu comptes des buts.
Faut que tu comptes des buts.
C'est ça.
Mais c'est peut-être pas ta job de compter des buts, tu sais.
Ah, ben c'est une bonne analogie, tu sais, si t'es défenseur, justement.
Exact, ou t'es joueur de 3e, 4e trio.
C'est très semblable à ça. Tu sais, une armée, c'est un travail d'équipe. Puis moi, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de ramener ça à ça. Dans toutes les entrevues que je fais, j'essaie de ramener ça à la réalité. Mais par contre, on a besoin d'icônes, de légendes, d'histoires. Ben, je dis toujours, les faits sont bons, mais les histoires sont encore meilleures.
Ouais.
On veut des histoires personnalisées.
C'est vrai.
En même temps, c'est bon pour le moral. Tu t'en vas en Ukraine, puis tu me sens des fois comme une espèce de vedette en visite. Tu me dis, hey, peux-tu faire promotion de telle affaire? Puis l'Ukraine, il manque d'argent, puis tout le monde est en misère, ils se font détruire leur affaire. Gratuit. Je vais vous faire si ça peut vous aider. Fait que là, tu t'en vas là, il y a un cortège de photographes, caméras, de journées. Tabarnan, je suis un premier ministre, ça ne savait pas.
Mais ça, je trouvais ça intéressant parce que là, on parle de l'Ukraine, tu le plugs depuis tantôt, je me dis. Quand tu as vu ça, la guerre, là, c'est l'annonce. Là. Pourquoi tu es allé?
C'est un peu l'analogie du médecin. Tu es un médecin, tu vois quelqu'un faire une crise cardiaque au bord de la rue. Qu'est-ce que tu fais? En fait, la question me déstabilise souvent parce que c'est tellement évident pour moi que.
Je comprends.
Si j'ai de la misère à donner une réponse claire.
C'est drôle que ça soit autant évident pour toi, mais autant flou pour tout le monde.
Ben, tu sais, je veux dire, t'as quelqu'un qui a besoin d'aide et à même d'aider. Je veux dire, pourquoi y penser? C'est parce que peut-être vu que c'est la guerre, ça peut être vu d'une façon négative, mais faut être là-bas, sur le front, puis voir la dévastation, puis voir comment que dans certains pays, dans le monde, il y a vraiment du monde vraiment méchant.
Ouais.
Tu sais, on oublie qu'il y a vraiment du monde méchant. Puis c'est dur à. You don't believe it until you see it. Parce que, tu sais, une fois que tu n'as pas vu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire certaines personnes dans le monde, tu ne comprends pas l'utilité d'aller défendre. Tout. Mais quand tu vois des réfugiés du monde se faire démolir les maisons, etc., là, tu vas me dire, ouais, mais toi aussi, tu fais ça, oui, mais il y a des nuances. Là. En passant, je ne suis pas en train de dire que les Ukrainiens sont tous des anges puis les Russes sont tous des méchants.
Ouais.
Ou que moi, je suis juste parfait puis que je combats des méchants. Il y a des nuances. Okay?
Ouais.
Mais. En même temps, il y a quand même des nuances, des teintes de gris foncé et des teintes de gris clair. Puis dans ce cas-ci, je pense que c'en est un exemple. Puis moi, je voyais... en fait, il y a eu un appel de Zelensky, du président. Donc, il en demandait. Puis ça, c'est un de mes principes. Quand quelqu'un me demande l'aide, je le fais. Puis moi, je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour aider, c'est-à-dire être public, pour montrer aux autres, allez-y, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation au début. Les gens, tu sais, ils craignent. C'est-tu pro-russe? Sont-tu sur le bord? Vas-tu arriver là, puis ils vont te mettre en prison, puis tu vas te faire exécuter. Fait que c'est important de montrer la voix aux autres, publiquement, être très vocal. Puis après ça, tu te prends photo, genre, en prenant une soupe, un borsch. Ceux qui connaissent ça, là. Un borsch, c'est de la soupe là-bas, c'est comme leur pâté chinois. Là. C'est comme une soupe ukrainienne. Puis tu prends ça, puis tu souris. Puis là, tu montres que tout va bien, puis qu'ils te traitent bien, etc. C'est pas parfait, c'est rough, mais au moins, ils sont là, ils sont contents de te voir. Puis là, il y a du monde, ils vont voir ça à la télé. Ils vont dire, hey, sais-tu, moi, peut-être aller donner un petit coup de main comme médic ou transporter la nourriture parce que là, je sens que je peux y aller. Fait que ça, c'était la principale chose que je fallait que je fasse. C'était ma vision. être vocal puis le montrer le plus rapidement possible. En même temps, je comprenais que c'était très rapide. Tu sais, ce genre de gars-là, là, mécanisé, etc., c'est très, ça peut être très rapide. L'exemple que j'ai en tête, c'est l'invasion de la France par l'Allemagne nazie.
Okay.
C'est en 1940, ça a pris 6 semaines avant que l'armistice ait signé puis que la France soit... Puis la bataille décisive s'est passée en à peu près 2 à 3 semaines.
Parce que, est-ce que...
Fait que je savais que le temps, là, fallait que je me dépêche. Fait que je me garoche.
Ouais.
Carrément, littéralement. Moi, je disais tout le temps, la rapidité d'exécution était plus importante que la perfection d'exécution. Fait que je me suis garoché. J'ai pas été voir les autorités pour avoir des papiers parce qu'ils disaient aller à l'ambassade. Non, on se garoche, on se pitch.
Okay.
Je vais pogner quelque chose dans un gun. C'est dangereux faire ça.
Mm-hmm.
Parce que t'es pas préparé. Je suis arrivé là avec des armes que j'ai à peine ajustées, etc., face à des tanks. Pas idéal comme situation, mais c'est la réalité. Puis à un moment donné, il faut accepter l'imperfection dans la vie. Mm-hmm. Si tu veux des situations parfaites pour agir, t'en auras pas. Puis tu changeras rien.
Puis je t'arrête 2 secondes. Est-ce que, comme là, on parlait tantôt quand t'es arrivé au Kyrgyzstan, t'étais comme un touriste, tu sais.
Ouais.
Un peu.
L'Ukraine aussi.
C'est ça.
Moi, je dis tout le temps, j'avais un visa d'une main.
Ouais.
Puis un gun de l'autre.
Fait qu'un peu plus concrètement, là, tu sais, qu'est-ce que t'as apporté quand t'as pacté tes affaires?
OK. On va parler de logistique et finance, parce que ça, c'est super intéressant. Exactement. J'ai fait une entrevue justement avec Forbes Magazine, qui n'est pas publié encore, mais on parlait un peu des aspects finance, etc.
Mm-hmm.
Puis, en fait, on pourrait peut-être y aller finance en premier, je pourrais être sûr, j'oublie pas. Puis j'y pense, là. OK. C'est beaucoup de sacrifices. Mm-hmm. Tu sais, il y a une des critiques qui revient, c'est « Ah, tu veux vendre tes livres, tu veux... » J'ai le goût de leur dire « Écoutez, mes chers amis, là, si je veux faire de l'argent, là, on ne va pas en Ukraine ou comme combattant volontaire. » Mm-hmm. Okay. Tu peux peut-être retoucher ton argent, puis oui, là, les films, peut-être que même je vais faire plus d'argent, OK, mm-hmm. peut-être. Mais honnêtement, là, moi, je dis toujours, s'il y a une opportunité d'affaires, s'il y a de l'argent facile quelque part dans la vie, c'est pas long que le mot se passe, puis un line-up.
Ouais.
Tu sais, tu vois que les chaînes YouTube, là, il y a du monde qui sont fait plein d'argent avec ça, puis là, plein de monde veulent embarquer, puis ça, c'est des cycles. La ruée vers l'or, c'est ça. À un moment donné, tu trouves de l'or en creusant. Il va y avoir du monde qui va s'en rendre compte, puis tout le monde va se mettre à creuser, fait que la valeur de cette chose-là va baisser.
Puis il va être plus dur.
Fait que le fait qu'il n'y ait pas de line-up pour faire ce que je fais est un signe que c'est pas super.
Ouais.
Tu sais, s'il suffit d'étudier 2 mois de temps dans un domaine, puis après ça, tu fais 150 000 par année, il va y avoir un line-up, l'offre va monter, c'est l'effet de offre-demande, puis là, la valeur va baisser.
Ouais.
Fait que ça s'équilibre tout le temps.
Exact.
Fait que quelqu'un qui me dit ça, je dis, ben, il est où le line-up, pourquoi tu y vas pas?
Je comprends.
C'est facile, tu me dis que je fais ça pour de l'argent, ben vas-y.
Vas-y,
l'argent est facile, va au front, tu sais. Fait que ça marche pas comme critique selon moi, mais c'est une critique qui revient des fois, que je suis un opportuniste, puis blablabla, puis que je veux faire de l'argent. Ben oui, je veux me rembourser parce que en même temps, c'est beaucoup de sacrifices, là, pour être bien franc.
Puis, il faut que tu payes ton billet d'avion.
OK. Les billets d'avion, selon les saisons, OK? Je suis allé cet été, puis cet été, les prix étaient fous, là. Juste aller, là. Mais tu sais, de, mettons, la Pologne à Montréal, c'est comme, avec les bagages, tout, pas loin de 2000.
OK.
Fatigué un petit peu,
là. Puis, t'es allé cet été pour...
Ben là, au début, je veux pas rentrer tout dans les détails, là, mais en résumé, parce que là, ça va être long, hein, tabac.
Non, vas-y.
En résumé, on a été tourner le documentaire. Okay. Puis il y a eu d'autres affaires qui se sont passées aussi.
Okay.
Puis c'était ça que j'ai été faire. Fait que j'ai pas été longtemps cette fois-ci.
Fait que ça, toi, t'as payé ça de ta poche.
Oui. Mais quand à chaque fois tu y vas, la première fois, c'est tes poches. Moi, je dis tout le temps, je suis le soldat le moins bien payé.
Ouais.
Fierté, là. Je paye pour vous aider. Puis ils sont contents, là.
Ouais.
Mais tu sais, billet d'avion. Tout ton équipement peut. Il y en a qui sont vraiment, tu sais, Joe Kit, qu'on appelle dans l'armée. Ils veulent s'équiper. Des stroboscopes, puis en tout cas des infrarouges, puis des casques. Puis si moi j'avais ma casquette, ben pas celle-là, une autre.
Okay.
C'était mon casque.
Pour vrai?
Oui. Oh, ben au Kyrgyzstan, j'avais un casque Airsoft parce que j'étais pas capable de trouver un casque, un vrai casque, en Kevlar, puis tout. Pis, fait que j'ai trouvé je me suis acheté un casque Airsoft parce que je me suis dit, le but c'est de te protéger la tête contre des impacts. Parce que des fois on pense. Tu te protèges contre des éclats d'obus, mais des fois, c'est juste, qu'on dit, là, mais un accident d'auto.
Ouais.
Tu sais, derrière un pick-up, là. Puis là, ça revole, ça a la barre de métal. Ting! Ouais. Des fois, juste un casque Airsoft solide, là, pour te protéger.
Puis tu pouvais pas l'apporter, tout ton casque.
Puis là, c'est ça l'affaire. Quand t'es un combattant volontaire, t'es pas officiel, mettons, je te dis, OK, tu vas t'acheter la meilleure casque, le meilleur truc, ça va te monter à 10 000. Ce qui peut arriver, qui est arrivé à d'autres, tu vas arriver dans les douanes de, je sais pas, Jordanie. Casque, non, pas le droit. T'es ton 10 000 piastres viennent de passer le bord, puis tu t'en vas au front, puis d'équipement. Fait que ça, c'est la réalité de bien des gars.
Okay.
Fait que, faut tout le temps, tu penses, OK, est-ce que je suis prêt à perdre ça?
Mm-hmm.
Là, je m'achète un casque. Le casque, souvent, ça passe. L'équipement de protection en passant, ça, c'est souvent, ça passe. Kurdistan d'ailleurs, il y en avait des fakes.
Ah ouais.
Ça, c'est génial. T'achètes, tu sais, de la protection balistique.
Ouais, fake.
Ça a le même poids. Fait que tu suis autant, puis t'es... Mais quand arrive le moment de te protéger, ça te protège pas parce que c'est du carton.
Super.
C'est fun, hein?
Super.
Ça, j'ai vu ça. OK, fait qu'il y a pas de normes autant. Fait que là, des fois, il fallait couper au couteau.
Pour voir si...
Puis quand t'es habitué de voir du Kevlar, tu sais comment voir. Puis ça a de l'air d'être du Kevlar, mais tu sais, des fois, c'est dur à imiter à ce point-là. Fait que là, on coupait carrément des, certaines pièces d'équipement pour analyser la chose. Des fois, c'est des surplus de, d'anciennes guerres, puis sont comme exemple des plaques balistiques qui ont tombé, qui sont craquées, puis qui n'ont pas passé le test de rayon X. Tu sais, nous autres, ils vont les passer au rayon X avant d'être déployés ici, au Canada. Ils ont une sorte de standard à faire comme ça, mais... ils vont, mettons qu'ils aboutissent dans un pays X, Y, Z, peut-être qu'elle va être en mauvais état, elle ne te protégera pas autant.
Faut, okay, je
quand tu es soldat volontaire, il faut que tu sois à l'affût de, ces, de cette réalité-là qui n'est plus la même. Là. Fait que, tu sais, les fausses plaques balistiques parce qu'il n'y a personne qui check à ta place. C'est vrai, là. C'est Ahmed, là, qui vient de, du village XYZ. Il y a un deal pour toi.
Mais quand j'arrive là.
Regarde, j'ai vu à un moment donné un pistolet. Les autres, ils adorent, les, dans certains pays, les beaux pistolets modernes, genre les Glock, là. Ils adorent. Les Glock, là, ceux qui connaissent ça. Puis là, à un moment donné, j'en voyais un, puis là, je prends mes pistolets, puis je suis comme. Ça semble qu'il fit, il marche pas bien cette affaire-là. Ça, juste le feel.
En
un, je leur dis, t'es sûr que tu vas faire ça? Il prend des balles artisanales, là, pas trop fiables. Puis je dis, va-t'en là-bas l'essayer si tu veux. Là. Il l'essaye au bout de son bras de même. Pow! La balle te revole.
Il était genre.
Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ça, ça aurait pu te blesser. Il y a une chance que tu irais à bout de bras de main. Là, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont remonté, ils ont tout gossé pour leur vendre.
Fait que, exact, faut que tu apportes tes.
Les balles, tu peux pas.
Ouais, c'est ça.
L'équipement de vision nocturne, thermale aussi, c'est souvent illégal. Tout ce qui est mis sur une arme, là. Tu sais, tu peux avoir des jumelles, je crois, au Canada. Je suis plus sûr, là, des règles. Mais tu peux pas avoir, mettons, quelque chose qui se monte sur une arme.
OK.
Fait que maintenant, même si tu as l'argent, tout, tu peux pas l'acheter ici.
Fait que, mettons que tu arrives là-bas. Tu sais même pas si tu vas avoir un gun. Tu sais même pas si
c'est
tu vas avoir...
C'est sûr, tu sais pas de bonne qualité.
Ouais, c'est ça.
Soit c'est les munitions, parce que être sniper, le problème, c'est souvent un problème logistique. En Ukraine, c'est ça aussi. C'est que il y a beaucoup de monde qui comprennent pas, tu sais, que c'est pas juste tu me donnes n'importe quoi qui ressemble à un gun.
Non, c'est ça.
Il y a des, certains pays qui sont tellement, tu sais, je vais utiliser un mot un peu, tu sais, pas political learning, mais c'est un peu ça. Il y a des pays qui sont un peu arriérés, puis ils comprennent pas. Que c'est pas passé de là, bon, que c'est bon. Fait que il y avait des pays que un sniper, c'est un gars qui a un scope.
Ouais. Là, tu dis
déjà,
non.
Moi, j'ai déjà vu des guns, là, que le scope, il faisait ça, même clic, 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 clic. Fait que j'ai fait comme arrache ça. À un moment donné, j'ai fait ça. J'ai dit arrache ça parce que là, elle est toute usée. Je sais pas quelle guerre qu'elle a faite, mais c'est pas sa première. Puis arrache ça, mets une corde, mets ça tout ton cou pour voir, identifier.
Ok, comme lumière, genre.
Genre, comme ça. Je sais que c'est pas beau, mais c'est ça qui est utile. Si tu veux être bon, là. Si tu veux juste avoir de l'air pour Instagram, cool. Mais après ça, enlève-la. Parce que c'est ça l'affaire. Il y a Instagram à notre époque partout. Puis là, j'ai dit, je vais acheter son arme avec les mires, tu sais, en métal, là, une mire sèche qu'on appelle.
Ok.
Puis là, son arme, elle tirait drette, parce qu'elle tirait pas drette avant. Puis là, il pouvait utiliser. Mais là, les joueurs, ils étaient déçus. Il aurait voulu que j'ajuste son scope.
OK, je suis
Son scope, il marche pas bien.
Pété.
Il aurait fallu que je le soude à la limite.
Tabarnak, OK. Fait que c'est vraiment.
Fait que le problème, c'est souvent logistique. Oui, bien souvent, le problème est là. Là, j'ai des contacts. Fait que là, j'ai plus de privilèges. Fait que je suis capable de mettre la main sur certaines affaires. Mais des fois, le problème peut être aussi banal que pas avoir le permis. Fait que là, faut que quelqu'un te le passe, mais que ça soit en son nom. Fait que là, faut que tu te fasses escorter. Parce que là, moi, je veux pas signer des colis de papiers officiels. Parce que je déteste signer des papiers officiels d'armée dans le monde. Parce que après ça, tu te fais mettre dans une grosse machine à saucisses. Puis là, tu perds ta liberté.
Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est de me demander est-ce que, mettons, là, tu sais, toi, t'étais un soldat. Tout le monde sait que t'étais un soldat. Puis là, tu t'en vas en Ukraine. Puis tu t'en vas être protégé, mais essayer de tuer des gens, là, au final. Comment ça, c'est légal, tu sais? Parce que là, t'es plus un soldat.
J'ai fait des conférences là-dessus à la sécurité publique, puis à un paquet de monde, OK? Puis c'est même moi. Une affaire qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une. Je pense que je suis un bon avocat parce que je suis bon pour faire des belles petites phrases. Je suis écrivain d'ailleurs. Puis j'ai fait ma définition, je pense, légale, je ne l'ai pas de mémoire, de ce qu'est un combattant volontaire, parce qu'honnêtement, il y a un vide juridique, il y a un vide légal et juridique, etc. Il n'y a pas tant de précédents. Fait qu'en ce moment, il y a encore un vide. Puis au Kurdistan, quand j'étais allé contre l'État islamique, il y avait ce vide-là. Puis j'avais fait une conférence avec la sécurité publique, j'ai RC un paquet de monde. Puis j'ai fait ma définition. Mais qu'est-ce qui m'a marqué, c'est qu'ils prenaient des notes. Fait que j'ai fait, oh tabarnak, ils n'ont pas de définition.
Ouais, c'est ça.
Mais il n'y en a pas vraiment, parce qu'on est dans un état de droit. Puis là, des fois, on le répète, puis on le dit, puis, mais ça veut dire quelque chose, ça, techniquement. Un état de droit, ça veut dire que il y a des législateurs élus. Le système est loin d'être parfait, là. On va en parler longtemps. Mais ils sont élus. Puis ils vont faire des lois, puis après ça, il va y avoir des directives qu'ils vont émettre de ça, etc. Mais s'il n'y a pas de loi, je veux dire, un policier n'a pas le droit de dire hey, moi, là, je compte ça, moi, le. D'ailleurs, en Ukraine, je t'arrête. T'sais, je veux dire, il faut qu'il justifie. Ouais, il y a des lois. Ça. Il y a des certains pays que c'est moins de main. C'est quasiment l'arbitraire.
Ouais.
Là, lui, il faut qu'il fasse un chef d'accusation. Il faut qu'il y ait quelque chose. Là. Il peut pas juste dire hey, moi, ça me tente pas de te laisser passer parce que moi, j'ai vu sur YouTube que j'aimais pas ça. C'est un état de droit. Ouais. Fait que là, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a comme rien qui est écrit. De ce que j'en comprends. Je ne suis pas un avocat, rien, mais de ce que j'en comprends, il y a un vide. Fait que là, il y a comme. Là, on va se retrancher dans l'aspect moral. Moi, je dis tout le temps, la loi est plus ou moins un reflet de la moralité. Tu sais, si dans ta tête, ton éthique personnelle, ça fait vraiment pas de sens, il y a des chances que ça soit pas légal. Ça fasse pas de sens. Il y en a qui ont peut-être pas l'empathie de penser comme ça, mais c'est pour ça qu'il faut des lois pour forcer et contraindre le monde, malheureusement, parce qu'on est dans un monde où si tu laisses tout libre, plate à dire, mais peut-être qu'il y en a qui vont abuser. Ouais. Avec les lois, le monde abuse, fait que j'imagine pas de loi.
C'est ça.
C'est plate, là. Mais en résumé, c'est qu'il y a un vide.
Ouais.
Fait qu'à cause de ça, moi, je m'assure que moralement, ça fit dessus. Si je fais une analyse morale, personnelle, puis après ça, je vois si tu es endossé ou qu'un non-parlé des autorités.
Okay.
Au Kurdistan, c'est le même. Il était frileux de dire « oui, c'est bon
ouais. ».
Mais tu sentais que c'est comme « tant que tu fais pas de trouble, fais pas de crime de guerre, fais rien, etc. Fais, t'sais, t'es un citoyen que « by the book, t'as le droit
okay. ».
Vas-y. Évidemment qu'on ne boit pas pour un allié du Canada.
Ouais.
En Ukraine, là, il y a eu une déclaration, je pense que c'est Mélanie Joly, j'oublie, qui disait tout ce qui peut, elle s'est fait demander très rapidement là, quand que, j'étais allé. Puis là, c'est, je te dis ça de mémoire, là, mais elle a dit tout ce qui peut aider à défendre l'Ukraine, c'est bon. Je pense que c'était ça qu'elle avait dit. Fait que là, tu avais une espèce d'endossement moral, mais en même temps, c'est pas une loi, c'est rien de ça. Mais en même temps, moralement, tu sens que le monde est un peu de ton bord.
Je comprends.
Fait que c'est de même que je m'y prends, mais en même temps, il n'y a pas rien qui légalement back ça.
Ouais. OK, je comprends. Puis, est-ce que tu penses continuer à faire ça longtemps?
Oui, oui. Ben, à chaque fois, je me dis ça donne un fou.
OK.
Ben, à chaque fois, des fois, tu as quasiment l'impression que ça n'arrivera plus. Après le Kurdistan, le monde me dit hey, c'est fini, ça. Tu sais, volontaire, vas-y, qui s'en va de même. Tu n'en auras plus jamais de ça.
Ouais.
J'ai dit oh, peut-être pas. Mais...
Puis là, l'Ukraine.
Ouais, l'Ukraine. Puis là, tu vois, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent encore. T'sais.
Ouais.
J'aide un paquet d'affaires que je peux pas mentionner, mais tu sais, je veux dire, à chaque fois, je dis ça la dernière fois, mais finalement, il y a tout le temps quelque chose d'autre qui se passe.
Puis penses-tu retourner en Ukraine pour combattre ou tu vas les aider d'une autre façon?
Ouais, 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 j'aide encore l'Ukraine.
OK, ouais. OK, je comprends. Je comprends. Puis,
je veux pas trop me mouiller non plus.
Non, dis pas des choses que tu veux pas faire.
C'est ça. Puis en même temps, on parlait du prix tantôt, de comment ça coûte. Tu sais, faut pas oublier que quand tu pars, tu as des dépenses. Okay, mais t'as aussi le sacrifice du revenu. Tu sais, des fois, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, j'ai tel projet. »
Oui, c'est ça.
Ça paye tant. Puis en informatique, ça paye quand même bien.
Ouais.
Hein, point de bien franc. Fait que tu pourrais-tu le faire? Puis là,
mais non, je m'en vais payer pour aller
en train. Fait que là, tu perds l'argent, mais tu perds aussi l'opportunité.
Ouais.
Puis le développement professionnel, etc. Mm-hmm. Fait que tu perds des deux bords en même temps.
Ouais.
Puis là, est-ce que tu mets un coût à comment ça coûte? Parce que tu n'es pas assurable là, quand tu vois là. Moi, je pense que ça coûte 2000 piastres assurer un journaliste à Kiev. Là, je pense que ça a baissé parce que là, je commence à avoir plein de journalistes qui y vont.
OK.
Mais il n'y a pas longtemps, c'était 2000 piastres par jour l'assurance à Kiev.
OK.
Fait que Kiev, c'est super relax. On prend un podcast.
Ah oh, ouais. Ouais.
Tu peux te des petits latés là-bas. Okay. Oui, des alertes aériennes, des petites affaires, mais c'est pas l'apocalypse.
Je comprends.
C'est pas comme le début.
Ouais.
Puis, mais tu t'en vas 2000$, c'est pas assurable. Puis ils ont des packages, eux autres, en plus. Là. C'est
okay, pas individuel.
Oublie ça. C'est pas assurable. Fait que là, est-ce que tu mets les comptables, j'ai certaines notions de base de comptabilité. Pas le choix quand tu as une business.
Ouais.
Faut que tu comprennes un peu ce qui se passe. Puis tu mets souvent double entry, là, fait que tu arrives à zéro à la fin, là, le fameux. Puis, est-ce que tu mets une valeur comptable? Je pense que c'est des actuaires, en fait, qui font ça. Je pense pas que c'est des comptables. Mais c'est quoi la valeur du risque?
Okay.
Parce que dans un sens, il y a un risque.
Ben
il y a une valeur. Parce que s'il y avait 1000 combattants volontaires puis il y avait une espèce de ETF à la bourse qui bête sur comment ils vont s'en sortir, tu verrais comme qu'il y a une valeur spéculative à ça. T'sais, dans un sens, tu pourrais mettre des chiffres, mais c'est trop dur à évaluer. Là.
Mm-hmm.
Mais combien vaut le fait que tu pourrais perdre tes deux jambes à vie,
mais
avoir une commotion cérébrale à vie, puis être capable de fonctionner dans ta job, pas d'assurance.
Mm-hmm.
Je suis programmeur, juste être blessé 2 ans de temps à ma main,
c'est...
combien vaut ça?
Ouais, c'est ça.
Fait que là, ça, j'en mets pas de chiffre là-dessus, là, mais ouais. Si je calcule toutes les opportunités perdues, tout l'argent perdu, toutes les dépenses, c'est pas loin de 50 000 US.
Ah ouais, hein?
T'es à date. Hein. Mm-hmm. Fait que quelqu'un il me dit, hey, tu fais ça pour l'argent?
Ouais,
non, j'y crois vraiment, je te jure. OK.
C'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Puis là, le temps passe vite. Fait que j'aimerais ça te poser quelques dernières questions avant qu'on passe à un segment que je.
Tu veux pas parler de l'équipement? Ah, oh, bon, on a parlé un peu.
Ouais, ben vas-y. Tu
dis autre chose. Il y en a du stock à dire.
Parce que, mettons, qu'est-ce que tu packes dans ton sac? Parce qu'on a vu des photos de toi, là, tu sais.
Mais encore là.
Tu arrives, là, à l'aéroport. Là,
je vais faire un parallèle en soldat officiel, soldat pas officiel. Soldat officiel, c'est tellement le fun pour un soldat, parce que c'est facile, tu sais. Mm-hmm. Il dit, voici tes 2 grosses barrack box. Tu as des bagages accompagnés, non accompagnés, puis tu en as, là. Tu as 2 grosses barrack box qu'on appelle, là. C'est comme des 2 boîtes en place, en des Pelican case, là, en plastique, là. Puis c'est pas les cheapos. c'est sur les top Pelican, la marque Pelican, avec une affaire à pression, tu peux mettre ça dans un volcan, puis son groupe, tu en as 2, ça, c'est non accompagné, tu peux mettre du stock là-dedans, puis ta limite de poids est élevée.
Puis c'est-tu toi, quand t'es dans l'armée, c'est-tu toi qui décides qu'est-ce que tu apportes?
Ben, c'est sûr, t'as des restrictions.
OK.
Mais, tu sais, exemple, tu sais, ta mitrailleuse, elle va souvent être non accompagnée, mais tu vas arriver dans une voûte. Toi, en Afghanistan, t'arrivais à Dubaï, c'était Dubaï, tu sais, Dubaï, Puis là, t'arrivais dans une espèce de gym proche de la base, puis là, t'avais une voûte, puis tu pognais tes guns. Puis là, t'as marqué dans l'avion le leg final.
Okay.
Puis là, t'avais tes guns, ton casque, tout ton kit. Mais t'avais pas pensé à tout ça. Là, quand t'es civil, là, faut que tu regardes le site Air Canada ou whatever, Air Transat, OK, c'est quoi les limites? Là, c'est pas gros, là, ça va vite. Là.
Ouais.
Puis là, tu te dis, OK, je vais-tu être dans une... Là, t'es, mettons, fin février 2022. Là, l'apocalypse est en train de se déclarer. Là, tu regardes ta boîte.
Ouais.
Masque à gaz, pas masque à gaz?
Ouais, c'est ça.
Masque à gaz, j'ai tout le temps fait, OK, oui, je l'ai
fait. Ah ouais, c'est ça.
J'ai fait, si j'en manque un, là, si j'en ai pas, là, je vais capoter. Puis, c'est une attaque chimique, là, on sait jamais. L'État islamique, à un moment donné, ils voulaient le faire, mais
c'est
finalement leur
capacité. C'est clairement illégal depuis longtemps, en plus.
Oui, mais surtout l'État islamique. Mais tu sais, on ne sait jamais.
Oui, c'est ça. Mais s'ils décident de faire un crime de guerre, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, c'est ça. Puis tu n'as pas le droit.
C'est juste pas le droit.
Mais tu sais, mettons qu'ils. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit qu'ils vont pas le faire.
Exact.
L'État islamique, eux autres, ils s'en foutaient.
Puis
eux autres, voulaient le faire, mais fait que j'avais un masque à gaz, mais au cas où, mais ils n'ont pas eu une capacité. Ils ont une chance qu'on les a empêchés, que l'État islamique a été repris parce qu'ils avaient le contrôle d'usine.
OK.
Tu sais, je veux dire, c'est facile. Après 10 ans, l'État islamique, peut-être qu'il y aurait du gaz moutarde en grande quantité, puis il en verrait à profusion. Là, il est en train de développer cette capacité-là, mais ils n'ont pas développé parce qu'on les a écrasés. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, les bagages. Fait que toi, tu penses à plein d'affaires que normalement, t'as beaucoup de contraintes.
Ouais.
First, ça va-tu passer aux douanes?
Ouais, c'est ça.
Première fois que j'étais allé au Kurdistan, je me rappelle justement, mon masque à gaz, il ne fitait plus, j'avais trop d'équipement parce que tu penses à l'imprévu, tu penses à plein de choses. J'ai dit. À la fin, j'ai mis ça dans mon carry-on.
OK.
Puis pendant que j'ai mis mon masque à gaz, là, OK, il y a un petit enfant, genre, pour moi, 10 ans, qui m'a vu avec le masque à gaz, genre, qui a de l'air d'une affaire de jeu vidéo, là. Puis là, j'ai fait une joke, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'est une joke typique de moi, genre, mal placée, là, avant les sécurités, là, à ne pas dire.
Ouais.
Puis là, il me regardait de main.
Tout étonné, là, de
comme... Je me suis dit, c'est pas illégal d'amener ça dans le carry-on, mais en même temps, je me dis, Kim, ça serait une forme d'attaque parce que. T'sais, on n'a pas le couteau, on n'a pas le ratique, mais si, mettons, j'amène une composante chimique que je mélange, puis ça fait un gaz toxique, puis moi, j'ai un masque à gaz, je peux faire un attentat.
Ouais, c'est...
Mais finalement, ça a passé.
Okay.
S'il y en a qui écoutent, là, peut-être que c'est une faille dans le système.
Non,
je pense que ça va être les bonnes personnes qui vont entendre.
Suivez pas ça.
Mais j'ai pensé à ça sur le coup. Mais tu penses pas à ça quand t'es militaire officiel. T'sais, ton masque à gaz, tout est là. Tu as en fait même une liste qui te donne, minimum, puis là, tu rajoutes.
Des trucs que toi t'aimes, genre.
Ouais, c'est ça. Exemple, toi t'aimes ta paire de pantalons plein air, camo. Peut-être pas tant que ça parce que souvent tu portes l'uniforme initial, mais mettons que t'as un
De quoi tu trouves cool.
Tu peux avoir plein d'équipements, des pouches, toutes sortes d'affaires que toi t'aimes, ton ordinateur personnel évidemment. Ouais. Tout ça. Fait que là tu l'amènes dans tes bagages, mais quand t'es volontaire, faut que tu penses à si es-tu légal, j'ai-tu la plage, j'ai-tu le poids, ok, l'extra, c'est moi qui te paye. Ça monte vite, hein? Puis s'ils se ramassent pas à destination, c'est ce que je fais, parce que là, t'atterris à Pologne, puis là, il y a un paquet de monde qui dépendent de toi, fait que là, faut que t'attendes tes bagages, des fois, faut que tu cours après le bagage. En rentrer dans un pays en guerre, c'est tout à compliqué.
Ouais.
Là, c'est simple, là, tu peux prendre le bus, tout, mais il n'y a plus d'aéroport, là.
Okay.
C'est encore bloqué. Je dis tout le temps en joke aux Ukrainiens, quand vous autres, les frontières vont ouvrir, là, tu vas avoir des ruées dans les avions, là, ils vont vouloir aller en vacances.
Tout le monde voulait venir.
Ils vont hypothéquer leur maison pour aller en vacances, avant que l'euphorie va reprendre.
Ouais.
Mais là, il faut que tu rentres, c'est comme, c'est long, là. Ça prend 2-3 jours rentrer en Ukraine.
Ouais, c'est fou,
tout le trajet, les autobus, les transports privés, tout. Mm-hmm. Ah, c'est long. Ouais, c'est fatigant.
Ah, ouais.
Les douanes, ça prend comme un temps fou, mais okay. C'était pas officiel.
Ouais.
Fait que les j'ai aidé justement des volontaires russes. Les Russes.
Ah ouais?
Ouais, puis qui s'en vont combattre en Ukraine.
OK.
Mais les autres, ils ont un passeport russe. Pour te dire que c'est pas super simple administrativement. Non, fait que là, les autres sont sous escorte. Tout le kit, ouais. Ça se fait, là. Mais tu sais, c'est pas comme officiel, c'est pas si simple que ça.
Je comprends.
Passeport canadien, il passe partout, ça, c'est ouais. L'avantage. Mais pareil, tu check, puis c'est long. Puis là,
ouais.
Tes douanes qui ouvrent, des fois, ils te reconnaissent. Là.
Ouais.
Fait que là, t'as une question, hein, là.
Ouais.
Je le sens, là.
Mais non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Je voulais juste être sûr qu'on n'avait pas posé, on n'avait pas parlé de qu'est-ce que je voulais déjà parler, puis tout, là. Mais c'est vraiment intéressant, là. Parce que moi, j'imagine pas. Déjà, juste être pris aux douanes, aux États, puis c'est genre, ah, on va te fouiller, puis t'as
mais c'est surtout très fatigant.
Ouais.
C'est embêtant, tu sais, ils te mm-hmm. demandent de vider toutes tes affaires. Là, ils trouvent un trophée de guerre, un obus que t'as amené. Puis là, tu reviens, mettons. Puis là, tu te dis, c'est, ben, il a failli me tuer cet obus-là, fait que je peux-tu le garder? Lui, ouais. Il veut le garder à un moment donné, je m'en rappelle. J'ai fait, hey. Il a failli me tuer, moi, pas toi.
Ouais, c'est ça.
Ah, ok, c'est beau. Tu me le laisses.
Ah, ouais, hein.
Là, tu te dis, ça va-tu passer l'autre
aéroport? Ouais, là, t'espères parce que t'es
un bout de métal, là, ouais. Qui passe dans l'aéroport, c'est de l'anunogie. C'est pas gros, mais tu sais, c'est quand même une petite ogie.
Ouais, ouais.
Fait que tu penses à plein d'affaires de même.
Mm-hmm. Ah non, mais.
Fait que les bagages, ça, c'est juste une aventure, juste là.
Ouais.
Faut que tu penses à tout. Faut que tu sois. Tu fais tes cartes. J'ai fait mes cartes topographiques pour le Kurdistan là-dedans, moi-même.
OK.
Parce que j'ai une formation là-dedans. Fait que je suis capable de. Je connais la cartographie, la géomatique, les projections, toutes ces choses-là. Ouais. Je connais ça. Fait que je me suis fait mes cartes imprimées. Parce que, tu sais, pas de carte, des fois, t'es comme handicapé un peu. Okay. Certaines choses, tu peux moins faire. Finalement, j'ai été off-map à un moment donné. J'avais plus de carte. Ouais. J'ai été à une place que je ne sais pas, que j'étais pas supposé d'aller.
Ouais.
J'avais fait comme plein de cartes, là, puis à un moment donné, j'étais off-map.
OK, puis là, t'étais comme...
La limite n'avait pas prévu que j'irais encore plus. Là,
puis est-ce que... parce que je pense que t'ai entendu dire que la guerre en Ukraine, ça ressemblait pas à la guerre en Afghanistan.
Toutes les guerres sont différentes.
OK.
Ça ressemble. Mais il y a certaines ressemblances pareilles.
Okay.
Ça ressemble quand même à la guerre au Kurdistan dans le sens que c'est conventionnel qu'on appelle. C'est-à-dire, conventionnel, c'est comme une guerre classique. Là, des tanks, on avance, on prend du territoire. Puis
comme Deuxième Guerre mondiale.
Des tranchées. Donc,
qu'on a vu.
Mais Kurdistan, souvent. C'était conventionnel. Là. Il y avait une ligne de front. Puis même en Afghanistan, des fois, ça venait conventionnel dans le sens qu'il fallait reprendre des territoires. Puis on attaquait comme quasiment une force conventionnelle.
Okay.
Fait que des fois, ça mute. L'État, on va dire. Puis à cause de ça, c'est du. Encore là, la fameuse réponse du expert, ça dépend.
Ouais, ça dépend.
Mais c'est vrai, ça dépend. Des fois, on a des images sur l'Afghanistan, c'était comme, maintenant, à l'époque, c'était le big thing. Là, puis là, on dit, il ne s'est rien passé en Afghanistan, c'était facile. Je vais te poser des histoires. Je suis sûr, je suis pas sûr qu'il se passait rien. Là.
Ouais.
Il y en a pour qui, peut-être. Si tu fais la moyenne de tout le monde, c'est clairement extrêmement plus violent et meurtrier. L'Ukraine, no doubt about it. Mais certaines histoires individuelles sont aussi intenses, un que l'autre. Ça dépend. Ouais. Chris Carl en Irak, là, toutes ces histoires, là, c'était la guerre comme en Ukraine. Là. Pour lui, c'était aussi pire que certaines expériences en Ukraine.
Ouais.
Mais si tu fais une moyenne de tout le monde, c'est sûr que l'Ukraine, c'est top. Oui, c'est violent.
Puis c'est quoi la différence entre, mettons, la guerre que tu vois là-bas, c'était ça, t'as-tu senti que toi, tu t'es écrit, je peux pas rester ici, là, je suis sûr que je vais me faire tuer si je reste ici, comparé.
Oui, oui, il y a un risk management.
Ah ouais, hein?
Ben oui, mais à un moment donné, moi, comme j'appelle ça ma carte de crédit.
OK.
OK. Puis quand la monnaie est pleine, puis que t'arrêtes pas de te faire presque tuer, ben c'est con, mais t'es comme un joueur sur la glace. Des fois, tu te dis, OK, je m'en vais au banc, je reviens.
Ouais.
Puis ça, encore là, il y a du monde, la propagande ennemie veut comme discréditer ceux qui. Les symboles comme moi qui reviennent. Ah, ils s'enfuient!
Et ça, j'en ai vu tellement.
Pèse, là. Parce que si tu te pèses pas, tu vas te faire tuer ou tu vas être fatigué mentalement. Faut que tu te pèses comme un joueur de hockey.
Ouais.
Fait que des fois, là, quand que j'ai comme mon crédit de OK, ça fait comme 20 fois que je manque de me faire tuer proche, là. OK, là, on prend un petit break, on s'en va en arrière, on s'en va prendre des petits lattés, des sushis, parce qu'on craint un petit peu. Non, mais c'est vrai.
Ah,
puis mentalement, là, il faut que tu restes fit. Parce que c'est ça ma force, c'est que je reste fit mentalement pour vrai. Là.
Okay.
Même si je peux voir du monde se faire éclater, je reste quand même fit. Là.
Okay.
Je peux arracher des cadavres dans le fin fond d'un pick-up, puis après ça, aller me commander ma pizza, puis être correct. Mais il y a une raison pour ça, c'est que je reconnais les signes de santé mentale, etc. Okay. Faut faire très attention. Faut que tu te pèses. Comme un joueur de hockey sur la glace.
Mm-hmm.
On veut, plaît pas, essaye pas de tout faire. C'est un travail d'équipe.
Je comprends.
Le problème, c'est qu'évidemment, quand t'as les projecteurs sur toi, ben là, tu te fais juger.
Puis t'étais-tu comme un peu la star de l'Ukraine, tu sais, de l'armée ukrainienne?
Ben, il y en a beaucoup, là, parce que il y a beaucoup de stars, mais c'est une des stars, là.
Je comprends.
Tu sais, il y a plein d'histoires individuelles, des héros.
Ouais.
Puis à un moment donné, pour vrai, tu m'as posé la question, faut-tu que tu t'en ailles de là? Ouais. À un moment donné, il y a un questionnement qui se fait. Parce qu'à un moment donné, je voyais que tu as les projecteurs, ça n'arrêtait pas, puis ici, puis ça, pis les New York Times de ce monde. Puis je dis, OK, il faut vraiment que je décide, parce que je suis père de famille.
Ouais.
Je fais comme, OK, est-ce que je veux être un héros ou un martyr? Mm-hmm. Parce qu'éventuellement, c'est sûr que si je me pèse pas, je vais être un martyr. Je vais me faire tuer. Je peux pas faire des patrouilles constamment de même. Ça fait que c'est un choix. Là. Tu es un martyr, on va t'applaudir, on va faire des funérailles, puis tu vas être un martyr, un symbole de la. C'est d'avoir écréné, puis etc. Mais c'est un choix. Il y a un spectre, tu sais, de l'héroïsme à la lâcheté.
Ouais.
Le plus grand du spectre, c'est le martyr. C'est-à-dire quelqu'un qui croit tellement quelque chose qu'il est prêt à aller contre sa vie physiquement. Là, après ça, tu as les sonneurs d'alerte qui vont aller contre leur intérêt moral, sociétal, on va dire ça. Ils vont tuer leur carrière, tout pour décrire une situation qui est, comme, qui est inacceptable. C'est une forme de martyr.
Ouais.
Puis là, tu as ce que j'appelle l'héroïsme. L'héroïsme, c'est quelqu'un qui va prendre un risque énorme, OK, sur, mettons, on pourrait dire, c'est souvent physique, là, c'est un risque sur ta vie personnelle pour une cause. Puis là, tu as, mettons, face à job professionnellement, un soldat professionnel. Ouais. Puis là, tu as les niveaux de lâcheté. Puis là, le plus extrême, ce serait quelqu'un qui sait exactement quoi faire. Tu lui demandes un petit sacrifice, tu lui demandes de lever le doigt.
Ouais.
Puis même ça, il n'est pas capable de le faire parce que ça le dérange. Ça, c'est l'extrême de la lâcheté. Fait que là, tu as le spectre. Moi, je suis comme dans la catégorie héros, je vais dire ça de même, parce que je prends des risques ma vie. J'analyse ça froidement. Là. J'aime pas dire ça, là, mais en même temps, je sais que ça passe mal des fois. C'est surtout pas comme héros.
Non,
mais je suis comme dans le spectre. Que... Mais en même temps, je suis pas là à dire moi, je suis le meilleur, je suis ici, ça. Là. Je fais juste dire, je pense que je vais prouver là, à force de le faire.
Puis s'il y a du monde qui chiale là-dessus, ben allez-y.
Il y a ça aussi. Ouais. Ça, j'ai tout le temps le Joker. Si quelqu'un me critique, je peux dire, ben viens
voir. C'est ça. Viens avec moi la prochaine fois.
Kirsten, c'était plus controversé. Puis là, le monde me dit, oh, mais là, si tu fais la guerre, puis c'est ça. Je dis, ben, viens me montrer comment faire la paix.
Ah, c'est ça.
Attends, là, on va aller sur la ligne de front, puis tu vas aller te convaincre le gars en face de se calmer. Puis je te confirme qu'il peut-être qu'il n'aimera pas trop te voir. Je peux juste te le dire. Mais bon.
C'est vraiment. Je pense que t'es unique. Là. Tu sais que t'es comme, il n'y a pas tant de monde au Québec.
Non, c'est sûr qu'il y en a moins. Il y en a un échantillon restreint.
Puis, mettons, dernier petit truc que je voulais parler avant qu'on passe au segment que je pose à tout le monde. OK. Tu vois, on a mis Chris Carr, mais tu vois Joko winning, David Goggins.
Ouais, ouais, ouais,
vraiment, vraiment, vraiment connu aux États-Unis. Ils étaient dans Navy SEAL, puis là, maintenant, ils sont plus là, puis c'est des stars parce qu'ils font aussi d'autres choses. Est-ce que toi, c'est comme un objectif un peu que tu as de dire « Ah, ben je voudrais devenir une personnalité. »
Je suis pas contre, mais je le veux pas absolument. Okay. Mais si on, mais ça s'en va un peu vers là.
Ouais.
Mais moi, je veux pas jouer la carte du... puis j'ai pas le profil non plus de... Tu sais, j'ai pas le... physique dans toi. J'étais le plus petit de la gang des snipers dans mon équipe.
Oui.
Fait que moi, je capitalise pas sur l'espèce de mâle alpha, je vais te casser le cou en faisant avec mes deux. Il y en a que c'est... J'adore Joko, j'aime ça. Tu sais, ces fluoreurs-là, je trouve bon. Là. Ouais. J'ai son livre, d'ailleurs, Joko, c'est un de ses livres. Puis c'est excellent. Okay, j'en ai des livres de leadership militaire, puis j'adore ça. Je suis pas comme quelqu'un qui sent en compétition. Mais si on me dit, ben en fait, je le fais un peu déjà.
Ouais.
Ça prend de l'expansion vu que là, il y a des projets mis à haute visibilité. Mais je suis pas contre parce que ça se leverage.
Ouais.
Puis une affaire que ça, on pourra peut-être en parler si tu as le temps, mais le fait d'être porte-parole, c'est vraiment une expérience intéressante.
Okay.
Quand j'étais au Kurdistan, je le faisais, mais c'était pas au niveau que je le fais là. C'est vraiment spécial d'être porte-parole parce que tu te sens, tu as le syndrome de l'imposteur. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme, je fais quasiment plus du parlage que de la job.
Ouais.
Puis c'est pas parce que je veux pas, là. Des fois, je pousse pour faire plus, mais des fois, on veut pas que j'y aille. Puis en tout cas, là, tu viens comme. Là, tu te fais applaudir, hein, héros, puis c'est ça, t'es là.
Mais
oui,
c'est une bonne façon.
J'ai fait ma job, mais en même temps, je vais t'en nommer qui sont là depuis 6 mois, puis qui sont rentrés dedans, puis qu'ils sont. Ou un autre qui est mort, puis qu'il y a un autre qui a plus de jambes, puis ici, puis ça. Puis là, tu te fais comme plus acclamer des fois, puis ça fait comme. Tu te sens un peu comme un imposteur. Tu fais comme. Puis en plus, je suis positionné, j'en ai fait la job, là, à date, là, partout dans les gars que j'ai fait. Pourtant, je pourrais ne pas me sentir de même, mais je me sens un peu de même.
Je comprends.
Mais en même temps, ce qui est, j'apprends aussi quand t'es pourparole, puis que tu parles à des médias, etc., c'est que c'est très. C'est une job. Dans le sens que c'est plus dur que ça en a l'air. C'est dur, là.
C'est sûr. Mais c'est parce qu'il faut que tu dises toujours la bonne affaire. Faut que tu...
Moi, j'aime ça, là. Ouais. Tu sais, mais oui, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, il y a un projet que je fais avec une équipe là, pour sur le sujet de la médiation, l'expérience de la médiation, la pression médiatique, puis la distorsion, puis un paquet de choses comme ça. Ça, c'est super passionnant pour moi. J'adore ça, ces sujets-là. Mais j'en parle justement de que c'est pas tout le monde, là. On a l'impression avec Instagram, puis TikTok, puis ces affaires-là, que tout le monde veut être connu, puis où le monde fait, souvent veulent être connus, mais quand ils ont vraiment le spotlight, ils capotent.
Ouais.
Okay? Puis ça peut être grisant d'avoir son histoire pour 15 minutes, oui. Mais honnêtement, si je mets la pression, le spotlight sur quelqu'un là, à l'international ou quelque chose, puis de la grosse pression, honnêtement, il y a bien du monde là, qui prennent ça vraiment mal. Il y en a qui lâchent. Là. Genre, ils commencent à l'avoir, puis ils font « non, c'est trop. » Parce qu'ils font une entrevue, exemple, puis là, ils se font démolir. Par, parce qu'ils sont gênés ou peu importe où, ils se sont plantés dans une phrase. Puis là, ils figent plus. Oh, « Non, moi, je ne touche plus à ça. » C'est plus dur qu'on pense. Il faut avoir un talent de communicateur, ce qui n'est pas évident. Faut que tu sois prêt à prendre la pression, faut que tu sois prêt à te faire...
À te faire critiquer.
Même tes amis, des connaissances vont t'arriver. « Hey, j'ai lu ça, puis ils vont avoir une idée sur toi, puis c'est de même. » Tu demandes des amis qui te barrent de Facebook, j'en ai vu, qui te débarrent parce que là, t'es sur Spotlight. Là, t'es... Ça, j'ai vu toutes sortes d'affaires, assez de toutes les couleurs. Fait que faut que tu sois prêt à vivre des montagnes russes d'émotions, beaucoup de négativité. Le cycle du hype descend. Fait qu'à un moment donné, tu deviens... C'est pour ça que je pense que je suis grandé, parce que je sais qu'on est tous des futurs oubliés, honnêtement. Toutes les histoires vont finir par être oubliées. Qui se rappelle du président il y a 150 ans américains? Pourtant, c'était le président. Qui se rappelle du premier ministre de République XYZ il y a 53 ans personne? Pourtant, c'est le premier ministre. Je veux dire, c'est quelqu'un. Là. Pourtant, il va être un oublié. Il est déjà, c'est déjà le cas. Ça reste à... Tu restes grandé quand tu sais que tu vas être un oublié, peu importe ce que tu fais, tu as beau être le top du top du top, tu vas être oublié. C'est juste une question de temps. Tu vas être dans la tombe comme tout le monde, puis ça va finir là. Mais où c'est que je me demandais que ça? Moi, c'est ça, quand tu es porte-parole, c'est que tu viens, c'est comme quand même prenant. Moi, j'ai l'habitude. Moi, j'aime ça. Mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Puis quand tu l'as, le spotlight, c'est pas mal plus de pression qu'on peut penser.
Mais surtout avec des gros médias comme New York Times, puis tout, Forbes, puis tout ça. Comme
Les plus dangereuses des entrevues, c'est les entrevues écrites. Donc, tu parles à un journaliste, puis c'est enregistré, mettons. Puis là, il va faire un article écrit. Là, il peut te démolir ça. Puis il peut orienter ça de toutes les façons, prendre ta quote au milieu de ça, de contexte, pas mettre le contexte. Puis, des fois, c'est juste humain. Là. La presse, à un moment donné, ils ont fait un article qui m'a vraiment fait mal à l'image. Puis c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que c'est l'angle qu'il y avait dans sa tête. Puis là, j'étais comme, hey, c'est tellement pas ça que
poche,
pas le, ça reflète pas du tout. Mais faut que tu acceptes ça. Si tu veux pas ça, des fois, tu te fais critiquer. Hey, pourquoi t'as pas dit ça au journaliste? Pourquoi pensez-vous vraiment là, que j'ai tout le contrôle sur tout? Un des exemples que je me fais taper dessus, c'est pourquoi que là, tel média, mettons, je sais pas, je donne un exemple qui est arrivé, Bild, un média allemand. Un peu comme le TVA en Allemagne. On va dire ça de même. Puis eux autres, ils mettaient pour avoir des clics le meilleur sniper en Allemagne. Puis au monde se dévoile, puis là, je leur disais, mettez pas ça, s'il vous plaît. C'est pas respectueux envers tous les autres. Mais là, ils mettent pareil parce qu'il y a des clics. Puis ils vont dire, pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu faut faire une entrevue avec eux autres? J'ai dit, OK, écoute, voici la réalité d'un média. Il manque d'argent, et les médias sociaux, puis tout, ils peuvent pas. S'ils mettent une affaire ennuyante, tu cliqueras pas, puis là, moins d'argent, moins de financement. T'sais, c'est pas si simple que ça. Fait que faut que tu acceptes l'imperfection de notre monde, puis des fois, faut que tu une niaises imparfaite pour avoir un impact. Puis des fois, ben, où j'ai changé plein de titres d'affaires. J'ai souvent arrivé, genre, OK, pouvez-vous enlever là, que je suis le meilleur, là? Vous êtes juste, je suis bon.
OK, c'est ça.
Oui, moins de clics, mais à un moment donné, il faut être un petit peu franc, là. À un moment donné, c'est un travail d'équipe. Là,
je comprends.
Je veux pas. Fait que ça, je le fais souvent. Mais tu te fais critiquer, par exemple, pourquoi que là, tu as accepté de faire l'entrevue avec un tel, tu savais que tu exploites l'image, puis ici, puis ça, puis. OK, ben d'abord, je vais juste rester chez nous à rien faire.
C'est ça. Je vais pas donner un porte-parole, puis je vais pas aider.
C'est ça, faut que tu acceptes que toute cause a des porte-paroles du monde qui parle. Puis moi, à date, je fais le travail, je pense, assez bien.
J'espère que ce podcast-ci, il n'y a pas trop de monde qui va être fâché ou offusqué. Parce que
mais d'habitude, le monde comprenne quand même. Parce que j'ai. Tu sais, je te dirais, c'est peut-être pas 50, c'est peut-être 70% positif souvent, puis 30%. Les conspirationnistes, même pas. Là, parce que là, je défends l'élite. Là,
je comprends. En tout cas, on va rentrer là-dedans. Cool, ben je suis vraiment content. On va passer au dernier segment que je pose à tout le monde. C'est des questions que je pose à tout le monde, OK? Ça s'appelle la question parfaite. Si tu veux t'asseoir avec trois personnalités, trois personnes, puis pendant une soirée discuter, ça serait qui? Ça peut être quelqu'un de mort, de vivant.
Ça j'adore ces questions-là. Puis ça, là, c'est...
T'es pas obligé de dire pourquoi, juste dire les trois personnes.
Je peux dire pourquoi aussi, mais je prendrais des classiques. Mais Jésus. Le premier. Il y a tellement de choses qui sont écrites sur lui. Puis j'étudie beaucoup ça, c'est un autre côté que de moi qu'on me connaît, mais je connais Coleman. Merde, j'ai eu sacré en disant ça.
Dieu.
Je connais vraiment bien.
L'histoire
religieuse, chrétienne, etc. J'ai lu des livres académiques là-dessus. Je suis quand même assez calé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le, ce qu'on appelle le Jésus historique, qui est très dans la littérature plus anglo-saxonne, en fait, pour être bien franc. Mais le Jésus historique, c'est le Jésus qui est le plus vrai possible qu'on pense. Mais honnêtement, il y a des zones grises qu'on ne saura jamais, à moins d'être là. Puis ça, j'aimerais ça, genre, savoir vraiment
qu'est-ce
qui s'est passé. On a une des idées, une des hypothèses, mais il y a des choses qu'on ne saura pas, à moins d'être là.
Je comprends.
Ou d'avoir d'excaver des choses, mais ça n'arrivera pas sûrement non plus. Jésus, j'aimerais avoir une discussion avec lui.
Okay.
Deuxièmement, d'autres personnages que... Einstein, non, parce qu'on le connaît beaucoup. Fait que lui, j'aurais... Tu sais, je dis, là, je suis en train de penser à voir autre un peu. Ouais. Napoléon, j'aimerais ça avoir une discussion avec lui.
OK.
Parce que j'aimerais ça savoir comment confirmer certains faits, comment sa pensée militaire était.
OK.
Parce que écrire l'histoire militaire après les faits, c'est pas pareil que
quand
c'est dedans. Fait que je serais curieux d'avoir ses inputs. Puis un autre, ça serait le principal, ça serait un personnage très méconnu qui s'appelle Abdoshin, qui est ma source d'inspiration dans le fond, qui a écrit un livre dans la lumière de la vérité. Ça, c'est vraiment ma source d'inspiration spirituelle.
Ah ouais, hein?
Puis lui, je pense que ça serait une autre personne avec qui ça serait peut-être les trois que je peux choisir, mais il y en aurait plus que ça.
C'est sûr, tout le monde à chaque fois qu'ils disent, ils sont comme je voudrais tellement de monde, mais je comprends. Good. L'autre, réponse rapide. Okay, je te pose 4 questions, tu réponds le plus rapidement que tu peux.
J'aime ça, mais c'est stressant.
Ton projet le plus marquant.
C'est du grain, la date.
Une graine. Ton plus bel achat.
Achat. Oh non. Je te dirais l'investissement dans le commercial que j'ai fait, que j'ai revendu.
Ça, c'était cool.
Ouais, ça, c'était bon.
Nice. Un rêve secret.
Un rêve secret. Ah, tabarnache. Un rêve secret. Attends, faut que tu me laisses le temps.
Vas-y, pas longtemps.
Un rêve secret, c'est sûr que il y en a beaucoup. Pas, ça serait... C'est un rêve qui est réaliste, en fait, là, qui est en cours de... Mais c'est de construire ma maison traditionnelle de mes mains.
Ah, nice!
Ouais, puis je suis en train un peu de le faire, là.
OK.
Parce que là, j'ai déjà fait une petite cabine.
OK.
Fait que là, de mes mains.
Ah, nice!
Fait que ça, c'est... Ouais.
Très hot.
C'est sûr que je vais le faire à un moment donné.
OK.
Mais une belle, une grosse.
OK, je comprends. Ouais. Très hot. Dernière section, c'est under ou overrated. OK. Fait que chez un sujet, tu me dis si c'est... underrated ou c'est overrated.
Okay. Ça risque de tout être overrated parce qu'on est très dans l'apparence à notre époque.
Ok, je comprends. Mais je vois un peu où ça s'en va. Apple.
C'est fair.
Ok, parfait. Un film américain de sniper.
Qui est overrated ou en général?
Est-ce que c'est over ou underrated?
Sont tous overrated.
Sont tous overrated. Ok. le popcorn.
Non, c'est underrated.
Ok. les jeux de société.
Underrated, évidemment. On retourne aux sources dans le manuel. Ouais.
Le Coca-Cola.
Ah, c'est overrated parce que ça se copie très bien.
OK. Ouais. Les jeux vidéo de guerre, genre Call of Duty.
Ben, c'est overrated.
OK.
Ben, c'est artistiquement très intéressant.
OK.
C'est pas la réalité.
Facebook.
Overrated parce que il y a plein de clones puis tout, puis la technologie est très réplicable et très instable. En fait, Facebook a plein de bugs.
J'en parle comme un
mais c'est un produit... tu sais, les produits tech évoluent, comme on dit, dog years, là, en année de chien. Ça vieillit très mal, les produits
technologiques.
L'argent, c'est pour ça qu'elle se fait rapidement. Les ventures vendent vite après ça, parce que souvent, ça évolue tellement rapidement, la compétition. En tout cas, je m'étonne.
Je comprends, c'est intéressant. Le Bitcoin.
Bitcoin en soi est un peu overrated. Le Bitcoin, là, il y en a des Bitcoins qui ne vont pas m'aimer.
Ah ouais.
Parce que je connais très bien la technologie.
Okay.
Mais les crypto-monnaies sont underrated en général, mais le Bitcoin lui-même, je pense qu'il est overrated.
Okay.
C'est une technologie correcte, mais c'est une technologie qui est un petit peu archaïque encore.
Okay.
D'ailleurs, qui n'est pas quantum proof.
Ah, OK. Intéressant.
Les quantum vont pouvoir casser les clés Bitcoin.
Ah, ouais. OK,
ouais, mathématiquement, ça va se faire éventuellement.
Et le dernier, une équipe de Navy SEAL.
Ah, ben. C'est fair, là. Je veux dire, on a une image qui sont bons, mais ils sont bons.
OK, parfait. OK, fait qu'ils sont properly rated.
Ouais, ils sont properly.
Nice. Qu'est-ce qu'on peut mettre en description, Clément, de ton livre qui est disponible chez Renaud-Bray?
Oui, il est chez Renaud-Bray.
OK.
Fait que... Puis d'ailleurs, on peut parler de l'aspect business de ça parce que c'est difficile la distribution au Québec.
Ah,
très
difficile.
Fait qu'il y a plein de petites places qui n'ont pas mon livre, qui voudraient parce que le système de distribution ne permet pas. Parce que c'est archaïque un peu comme système. Puis en tout cas, bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Renaud-Bray l'ont, Amazon l'a.
OK.
Puis j'ai pas de distributeur pour les plus petits points de vente. Fait que certains points de vente peuvent, certains pas, c'est compliqué. Si vous faites passer une commande à un petit point de vente que vous voulez encourager en passant, ils vont vous l'avoir.
OK.
Si vous voulez vraiment encourager votre... Mais malheureusement, le système de distribution fait en sorte que je suis moins affiché dans les plus petits points de vente au Québec.
OK.
C'est en train de changer, mais c'est la bonne chose.
Fait que ton livre, allez voir ça si vous êtes intéressé. Ça, c'est ton premier.
Ben, j'en ai écrit d'autres là, sur des chenaux militaires, mais c'est mon premier vrai militaire.
Okay.
Fait que ça, c'est sur ma mission de sniper en Afghanistan.
Ouais.
Puis, je suis en train de faire celui sur l'Ukraine.
Okay.
Fait que là, j'ai beaucoup de plaisir à l'écrire. Après ça, j'aimerais ça faire un livre sur le Kurdistan parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas racontées qui sont vraiment intéressantes. Puis pour toutes les nouvelles, c'est wally.news. Maintenant, c'est wally.news. Mon site.
On peut aller mettre ça en description. Ouais. Si
fait que super simple. Facebook me blogue Nini parce que je pense que c'est un site de fausses nouvelles à cause du news. Okay. Parce que ça, anecdote. Mais wally.news, fait que là, c'est un peu le hub si vous voulez toutes les nouvelles, les liens, les projets. C'est pas mal là que je mets toutes les choses.
Super.
Puis sinon, comme consultant informatique, la version Polo.
La version Polo de
c'est
Wally.
Celle-là, c'est Dragon Axe.
Okay.
Okay. IO, c'est souvent des startups, toutes sortes d'affaires en passant. Puis la technologie pour Quantum que je fais avec mon collègue américain, c'est httpq.io, encore là.
Allez voir ça.
Fait que là, vous allez voir ça si vous voulez. Puis je vais mettre justement une démo prochainement. Je suis en train de la finir. Okay. De la technologie pour Quantum, on va pouvoir l'essayer sur le site.
Ah, nice.
C'est super simple. C'est l'encryption, là. Tu sais, genre, t'écris un secret, puis là, tu vois ce que ça a de l'air quand c'est encrypté.
OK.
Mais bon, ça peut être intéressant de le voir. Mais,
très cool. Ouais. Fait que si vous êtes intéressé, allez voir
Bien sûr.
Merci, Oli.
Ça fait plaisir.